Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Albigès. Aujourd'hui, nous vous proposons la rediffusion d'une conférence enregistrée le 10 juin 2019 à l'occasion de la foire Biocibel à Groyer. La première conférence de cette journée, elle était donc sur le thème « Secourir et accueillir les migrants » organisée en collaboration avec l'association Solidarité Migrants Groyer. Cette conférence a été présentée par Céline Isart et Vincent Brugère, deux photographes qui sont partis faire un tour de l'Europe des frontières, les frontières avec les pays limitrophes qui n'appartiennent pas à l'Union Européenne, dans le but de montrer quelles étaient les différentes politiques d'accueil entre pays très accueillants et pays plutôt fermés. Ils dressent un bilan de leur voyage qui remet en place quelques vérités et balaye les théories les plus farfelues qu'on peut entendre à propos de la surpopulation des étrangers en Europe ou encore du grand remplacement. Des chiffres qu'il est bon d'avoir en tête pour enfin peut-être entamer une véritable réflexion sur l'accueil des réfugiés et les politiques migratoires en Europe. Donc première conférence de la journée, aujourd'hui lundi à Biocibel 2019. Merci beaucoup à vous d'être venu pour présenter cette conférence et merci au public d'être venu en nombre. Parce que les conférences de 10h le matin, c'est toujours difficile, mais franchement, je trouve que c'est pas mal. Donc la première conférence, elle est sur le thème « Secourir, accueillir les migrants » et elle vous est présentée par l'association Solidarité Migrants Groyer. Il va y avoir donc plusieurs personnes qui vont s'enchaîner au micro, à commencer par Françoise qui va nous présenter et vous présenter l'association, un petit historique et tout ce que vous faites. Bonjour Françoise.
Alors l'association Solidarité Migrants existe depuis mai-juin 2016. Et en fait, historiquement, elle a été créée justement sur une problématique d'accueil, puisque en décembre 2015, 5 jeunes Maliens se sont trouvés à la rue et donc accueillis par des familles groyétoises. Et l'association s'est constituée au départ en solidarité avec ces 5 familles. Et donc, parmi ces jeunes Maliens, on en suit encore quelques-uns. Certains commencent à voler de leurs propres ailes. Et puis, ensuite, c'est autour de familles aussi qui se trouvent donc sans papier, donc sans droit et sans ressources aussi, parce qu'il faut des autorisations de travailler, tout ça. Et puis, des jeunes qui sont devenus majeurs, puisque les jeunes mineurs, théoriquement, sont accueillis en France par l'aide sociale à l'enfance, avec des difficultés, puisque tous les jeunes se disant mineurs ne sont pas toujours reconnus comme tels tout de suite. Donc l'association s'occupe d'accueillir des personnes qui viennent demander des renseignements, de l'aide, et peut proposer une aide financière ponctuelle assez petite, puisqu'on a des ressources modestes, mais qui viennent des dons et qui sont, disons, régulières. Alors des dons et aussi d'une fête que l'on fait chaque année en novembre, avec un repas et puis en général un concert. Voilà. Et donc, on tient une permanence le premier dimanche de chaque mois à Volubilo à Groyer. Et on se réunit régulièrement pour décider collectivement de ce qu'on fait et de la manière dont on aide les personnes selon leurs demandes. Parce qu'en fait, les situations sont très variables et selon, il n'y a pas de règles, c'est selon les cas particuliers. Alors, je vous propose d'accueillir aujourd'hui Céline et Vincent. Donc, Céline Isart et Vincent Brugère, qui sont photographes et qui ont visité 22 pays d'Europe et d'à côté. C'est ça ? Oui. Et qui ont pris des photos en visitant des lieux d'accueil ou de tri de migrants ou de désaccueil aussi un peu. Et donc on va les laisser raconter et expliquer ce qu'ils ont observé. Merci à vous.
Bonjour à tous. Donc je suis Céline Isart et mon partenaire Vincent Brugère. Nous sommes photographes plutôt spécialisés documentaires. Et donc nous avons commencé en 2015 un documentaire sur l'immigration en Europe. Nous avons fait un premier voyage de 5 mois entre septembre 2015 et février 2016. Où nous avons traversé, disons, l'Europe de façon plutôt horizontale jusqu'à la Bulgarie, en passant par l'Allemagne, l'Autriche, la Serbie, Bulgarie, on est revenu ensuite par la Grèce et l'Italie. Et nous avons fait un second voyage en 2017, fin 2017, début 2018. Voilà, un voyage de 4 mois. Et cette fois, nous sommes allés un peu plus au nord, jusqu'en Norvège, à la frontière avec la Russie. Un second voyage où nous nous sommes plutôt attachés à photographier le territoire et les centres d'accueil. Et les centres d'attente de demandeurs d'asile. Oui.
L'électricité est revenue.
Effectivement, parce que nous avions prévu donc de vous présenter notre travail en images quand même.
Oui, donc là, je suis juste en train de préparer le vidéoprojecteur. Et donc, l'objectif, c'était de vous présenter ce qu'on a pu constater, à savoir, l'objectif de notre travail photographique était d'essayer de présenter un panorama européen des politiques d'accueil ou de non-accueil, essayer de voir, de constater de nos propres yeux ce qui pouvait être mis en place au niveau européen. Donc, de manière générale, on ne peut pas donner un point de vue unique, tranché sur ce qu'on a pu observer de manière générale. Les choses sont quand même à nuancer. Quand on parle de politique d'accueil, il y a ce qui est mis en place au niveau d'un État, une politique gouvernementale, et aussi il y a la volonté d'accueillir ou de ne pas accueillir de la part des populations locales. Donc on distingue bien une politique d'État, on distingue bien la volonté d'une population d'accueillir... ça a à nouveau sauté. Oui. La part d'une population aussi d'accueillir ou de ne pas accueillir. Donc déjà, il faut être nuancé, c'est pas toujours très simple. Mais de manière générale, ce qu'on a pu constater, c'est que l'accueil n'était pas très très volontaire au niveau des différents États. Il n'y a pas eu de... L'Union européenne a essayé à un moment d'organiser un peu les choses, ça n'a pas vraiment marché, donc chaque pays a fait un peu à sa sauce de façon isolée dans son coin, ce qui fait que les premières personnes à en avoir pâti, ce sont évidemment les personnes qui sont venues se réfugier en Europe, et de manière générale aussi, nous on est assez attaché à documenter la situation, à donner des ordres de grandeur. Donc ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est parfois quelques chiffres qui nous font défaut ou qui ne sont pas forcément présentés. Donc au sein de l'Union européenne, donc les 28 États membres, en gros, sur trois années 2015, 2016, 2017, c'est 3 millions de demandes d'asile qui ont été déposées, 3 millions de primo-demandes, donc ce ne sont pas des personnes qui formulent un recours après une décision négative. Donc en gros, ce qui a été appelé crise en Europe, c'était 3 millions de personnes qui ont déposé une demande d'asile sur 511 millions de personnes qui peuplent les 28 États membres de l'Union européenne. Donc déjà, on met les choses en perspective. 3 millions de personnes, 511 millions, troisième foyer de peuplement au monde, l'Union européenne. Donc du coup, ce qui est une crise, en fait, si ça avait été géré correctement, s'il y avait eu une cohérence au niveau de l'Union européenne, peut-être que ça aurait pu se passer dans des conditions un peu meilleures. Ensuite, concernant l'accueil de ces personnes, alors on peut avoir des chiffres au niveau de l'Europe. En 2016, oui, on prend l'année référence, enfin moi je prends l'année référence 2016 parce que c'est l'année où le plus grand nombre de demandes a été déposé. Voilà, c'est à peu près, je crois, en 2016. 1 200 000 demandes d'asile qui a été déposée au niveau de l'Europe, au niveau de l'ensemble des pays. Donc c'est cette année référence que je prends. Le taux de réponse a été de 60%, c'est-à-dire que pour les premières demandes, 1 200 000, l'ensemble des pays européens, si on agrège les réponses positives, ça fait à peu près 60%, avec des situations très différentes. L'Allemagne, c'était plutôt 70% de réponses favorables. La Hongrie, c'était plutôt 8,5. Donc, encore une fois, la situation est extrêmement disparate, donc c'est compliqué de donner un avis global et tranché. Par exemple, en Allemagne, c'est un État fédéral, l'Allemagne, donc avec des régions qui sont fédérées. La chancelière était favorable à une politique d'accueil volontariste, ce qui n'était pas nécessairement le cas des États fédérés. La Bavière, elle, n'avait pas du tout la même position, puisque c'est l'État allemand qui décide de la politique d'accueil. Mais après, concrètement, ce sont les régions qui se trouvent confrontées à l'accueil physique, pragmatique. Donc là, il pouvait y avoir des clivages très importants. La Bavière ne voulait pas. L'Allemagne, l'État fédéral, était plutôt favorable à un accueil. Donc, encore une fois, même au sein d'un État, il faut nuancer. Ensuite, en Bavière... Ce qu'on a pu constater à Munich, il y a eu des manifestations favorables à l'accueil des migrants. Et il y a aussi eu des manifestations qui étaient défavorables à l'accueil. Donc encore une fois, c'est compliqué de donner un avis tranché et de dire l'Europe, globalement, a refusé cet accueil. Donc c'est assez à nuancer. Par contre, il y a aussi à prendre en compte le facteur géographique. Il est évident que la situation des pays en première ligne pour l'accueil des personnes qui venaient majoritairement à un moment du Proche-Orient, la Bulgarie avec sa frontière avec la Turquie, la Grèce et l'Italie pour la route méditerranéenne étaient des pays qui se situaient en première ligne et que, par exemple, l'accueil en Suède n'était pas le même pour des questions géographiques. C'est-à-dire qu'il a été moins important le nombre de demandes déposées en Allemagne, le nombre de personnes accueillies physiquement en Grèce et en Italie, ce n'est pas la même chose, par exemple, qu'en France ou qu'en Suède. La situation géographique est aussi à prendre en compte. Donc, nous, ce qu'on pourrait formuler, ce qu'on a pu constater, c'était des situations très disparates, mais la tendance générale, c'est que l'accueil a été assez frileux quand même. Hormis l'Allemagne qui avait une politique volontaire d'accueil, en Finlande, c'était un contrôle strict, c'est-à-dire que le nombre de personnes accueillies était très faible, c'était à peu près entre 70 et 75% de réponses négatives. Donc voilà, donc les personnes majoritairement avaient des réponses négatives. L'Allemagne, une politique volontaire. La Bulgarie, c'était pas non plus une politique d'accueil très très volontaire, loin de là, avec une population aussi qui était assez réfractaire. La Hongrie, bon, ben, c'était une politique d'accueil totalement fermée, avec une volonté de ne pas accueillir, les migrants. Où est-ce qu'on a aussi travaillé ? En Belgique, la situation est en demi-teinte. C'était à peu près, il y avait grosso modo à peu près 50% de réponses négatives. En gros, à chaque fois, ce sont des tendances, parce que ça peut changer d'une année à l'autre. Donc, ce qu'on a pu constater au niveau européen, c'était assez nuancé et aussi, par exemple, la Finlande qui pratique un contrôle strict avec une volonté de pas forcément beaucoup accueillir les gens, en revanche, d'un point de vue matériel, faisait des efforts assez importants pour essayer d'accueillir les gens dans des conditions dignes. Donc, y a ce point de vue-là et aussi, y a des modalités qui peuvent changer d'un pays à l'autre. Par exemple, quand on essaye d'accueillir les gens, la question de la langue n'est pas la même d'un pays à l'autre. En Autriche, on impose aux personnes de suivre des cours de langue et obtenir le statut de réfugié nécessite un certain niveau de langue. En Finlande, pas du tout. En Autriche, les personnes ne peuvent pas travailler avant d'avoir obtenu le statut de réfugié. En Finlande, elles peuvent déposer en même temps un statut elles peuvent demander une demande pour obtenir un statut de réfugié, mais aussi en parallèle, elles peuvent déposer une demande pour travailler, avoir un permis de travailler. Donc les situations sont extrêmement diverses et il n'y a pas vraiment d'harmonisation de ces procédures. En Finlande, au bout de 3 mois, les personnes peuvent avoir le droit de travailler. En Autriche, elles doivent attendre le terme de leur procédure. Donc, de manière générale, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cohérence, il n'y a pas vraiment d'harmonisation. Et face au bazar que ça a pu être, l'Union européenne a essayé à un moment, mis en place plusieurs réunions des ministres de l'Intérieur, c'était à l'automne, c'était en septembre 2015, pour essayer justement de répartir l'accueil de ces personnes. L'objectif, c'était de répartir l'accueil de 160 000 personnes. Donc, on garde à l'esprit, en 2016, 1 200 000 personnes ont déposé une demande d'accueil. L'Union européenne, fin 2015, a essayé d'organiser l'accueil de 160 000 personnes. Ça n'a pas marché. Un certain nombre de pays a voté contre cette répartition. La Finlande s'est abstenue, n'a pas voulu voter. Et en gros, on a réussi à atteindre 30%, un petit peu moins. Donc les pays ont été d'accord pour se répartir en gros 40 000 demandeurs d'asile. Donc on le voit, il n'y a pas eu de cohérence, il n'y a pas eu de concertation. Et aussi un point très important que l'on a constaté, on parle souvent de la situation grecque. Mais si on prend la situation grecque, elle est quand même catastrophique et très très compliquée. Notamment parce que beaucoup de personnes, pour des questions géographiques, sont arrivées en Grèce. Mais il faut avoir à l'esprit que la Hongrie a fermé ses frontières avec la Serbie et la Croatie. Donc la Hongrie a fermé toute sa frontière sud. En janvier 2016, la Macédoine a fermé sa frontière avec la Grèce. Donc résultat, les personnes entrées en Grèce et se retrouvaient bloquées en Grèce, non pas pour des questions extérieures au territoire européen, mais parce que les pays limitrophes ou les pays des Balkans, Hongrie et Macédoine, ont fermé leurs frontières. Donc la complexité de la situation grecque est au moins autant due à l'attitude des pays présents sur le territoire européen que des conditions qui ont poussé ces personnes à fuir. Et aussi, il y a une problématique, une question à laquelle il faut absolument tordre le cou, c'est que les personnes ne sont pas premièrement venues en Europe. Quand on regarde les chiffres de demande d'asile, le gros pic, c'est 2016. La question du conflit syrien commence bien avant. Et le réflexe majeur de ces personnes, c'est de se réfugier dans les pays limitrophes. Et donc ensuite, il y a eu un temps de latence avant que ces personnes n'arrivent en Europe. Donc du coup, on le voit bien à l'esprit, ça n'a pas été un projet. Parfois, on voit ce thème qui est développé, le thème du grand replacement, de cette vague programmée déferlant sur l'Europe. Il faut bien avoir à l'esprit, un, que ce n'est pas une vague déferlante sur l'Europe. Quand on met les ordres de grandeur et quand on prend les chiffres et qu'on les met en perspective, il y a très peu de personnes qui sont venues au sein de l'Union européenne. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Sur 3 années, c'est un petit peu moins ou aux environs de 3 millions de demandes, de primo-demandes. Donc, ce n'est pas énorme. Enfin, encore que moi, je vous dis que ce n'est pas énorme, mais c'est un point de vue. Pour certaines personnes, c'est beaucoup trop. Donc, 3 millions de personnes sur 500 millions. Voilà. Ça permet d'avoir les choses, d'avoir certaines grandeurs à l'esprit. Donc, première chose, il n'y a pas eu de vague massive arrivant sur l'Europe. Deuxième chose, ce n'est pas un projet de venir comme ça. On a rencontré tout un tas de personnes, on a portraituré. Et évidemment que ces personnes n'ont pas planifié de quitter leur pays. Et ensuite, le réflexe premier, d'abord de se mettre à l'abri dans les pays limitrophes. Donc ça, par exemple, était la Turquie ou le Liban. Et ensuite, ce qu'on a pu constater, c'est une grande, quand même de manière générale, une grande frilosité de la plupart des États européens, hormis l'Allemagne. L'Allemagne était un cas isolé. On n'a pas vu de politique de la part des États. Après, les populations, c'est encore autre chose, hein, les populations. Mais il n'y a pas eu de volonté massive d'accueillir ces personnes. En gros, c'est ce qu'on a pu constater.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Albigès sur le 95.4 et le 104.2.
Tu veux ajouter ton point de vue ou...
Oui, bah, Vincent a assez bien résumé ce qu'on a pu voir sur le territoire. Disons qu'en termes d'accueil, ça s'est traduit par des centres qui sont tenus de façon assez commune au pays, mais qui sont aussi différentes selon les directeurs de centres, selon aussi si c'est tenu par l'État ou tenu par des ONG. En Belgique, par exemple, les personnes en attente ont la possibilité de faire des petits travaux au sein des centres et c'est rémunéré 2 euros de l'heure. Dans certains centres, au contraire, il y a une, par exemple en Finlande, il y a une obligation de participer aux tâches communes, mais il n'y a aucune rémunération. Que dire d'autre après au niveau de...
Oui, il y a de... Donc, ce que vient de dire Céline, c'est bien sûr, il y a aussi une politique d'État. Mais aussi, la gestion d'un centre d'accueil dépend éminemment aussi de la personne qui le dirige. Ça, on l'a vu. On distingue, et c'est aussi en fonction de la géographie, plus les zones sont critiques pour accueillir les personnes, moins il y a d'ONG qui tiennent des centres. Par exemple, en Bulgarie, il y avait assez peu d'ONG qui dirigeaient des centres d'accueil ou des centres de transit. La Croix-Rouge avait le droit d'intervenir dans certains centres, mais ce n'est pas comme d'autres pays comme par exemple l'Allemagne ou comme par exemple la Finlande, où on peut déléguer la gestion de certains centres à des ONG. Mais majoritairement, ce qu'on a pu constater, c'est que l'humanité ou l'atmosphère d'un centre d'accueil dépend aussi de la personne qui est à sa tête. On a vu des centres d'État dirigés par des fonctionnaires d'État, très axés sur les chiffres, sur la gestion du centre. Et on a vu aussi des centres d'accueil qui étaient dirigés par d'anciens travailleurs sociaux avec une volonté peut-être plutôt d'essayer de rendre les choses un peu plus agréables, un peu plus humaines. Et donc, oui, on peut... c'est ce qui se détache, donc... oui, on distingue les différents pays, bien sûr, en fonction de leur géographie et aussi la question des centres d'accueil qui sont pas les mêmes. Les distinctions qu'on retrouve à l'étranger sont les mêmes qu'en France. En France, il y a les CAO, les centres d'accueil et d'orientation. À l'étranger, on appelle ça des centres de transit, où on enregistre les personnes, on vérifie le bien fondé de la demande d'asile. Soit on la traite dans le pays où on contrôle la personne, ou on la traite dans le premier pays par lequel elle est rentrée au sein de l'Union européenne. Et ensuite, il y a les centres, comme en France, les centres d'accueil de demandeurs d'asile. En anglais, on appelle ça les waiting centers, où on attend que les personnes reçoivent une réponse à leur demande, positive ou négative. Et aussi, c'est intéressant de voir, en fonction des pays, ce que les centres fournissent comme aide à l'intégration ou justement n'aident pas à l'intégration des personnes qui sont accueillies dans ces centres. En Finlande, c'est très clair, le centre d'accueil a pour mission, que ce soit un centre d'État ou un centre tenu par un ONG ou une municipalité, a pour mission d'informer les personnes concernant leurs droits, de fournir un hébergement, de fournir des soins et une assistance à la procédure, mais c'est tout. On nous l'a dit, voilà, nous, notre objectif, tout ce qui est au-delà de ces 4 ou 5 points nécessaires, c'est du bonus et ça ne rentre pas dans notre périmètre de compétences. Et donc les personnes doivent s'embêter à essayer de prendre des cours, à essayer de s'intégrer, mais du coup, on ne comprenait pas pourquoi il y avait seulement ces attributions qui rentraient dans les prérogatives des centres. Après, quand on a compris quel était le taux de réponse négative, on s'est dit oui, effectivement, les personnes ne s'embêtent pas à essayer d'intégrer des personnes, essayer de leur donner les éléments fondamentaux de la culture du pays, parce que de toute façon, elles recevront en large majorité une réponse négative. Donc en Finlande, c'est cohérent. Dans un centre d'accueil, l'aide à la procédure, les soins médicaux, l'aide administrative, l'hébergement, c'est tout. Parce que de toute façon, la plupart des personnes recevront une réponse négative. En gros, c'était à peu près 70% à 75% de réponses négatives. Donc, du coup, ça faisait sens pour eux. Et ensuite, il y a des centres d'accueil qu'on a pu voir en Belgique, qui étaient au contraire très ouverts sur la population locale, avec des réunions organisées avec le voisinage. Et ça, c'était un centre d'accueil qui était tenu par une ONG, Caritas. Et donc, on voyait que c'était pas du tout la même logique. Déjà, en Belgique, le taux de réponse positive était un peu plus élevé. Et donc, il y avait une volonté de créer des liens, des interactions avec la population aux alentours. Et on a vu, pour les centres d'accueil, à peu près tous les cas de figure. Des centres qui, parfois, étaient en centre-ville. Des centres qui étaient dans des zones d'activité industrielle à des kilomètres du centre-ville. Parfois les centres étaient assez peu nombreux dans des pays, donc il y avait la volonté de regrouper les personnes. En Finlande, l'objectif c'était au contraire de dispatcher l'ensemble des demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire. Donc il y a vraiment tous les cas de figure en termes d'accueil, avec une tendance globale qui est une frilosité à accueillir ces personnes, quoi, de manière générale, de la part des États. Après, les personnes c'était un peu différent, enfin les populations c'était un peu différent, oui. Et aussi, je tiens à le préciser, on a parlé des personnes qui pouvaient diriger les centres, mais on l'a vu aussi, c'était en Finlande, des travailleurs sociaux de la Croix-Rouge, qui, bien sûr, quand un État délègue la gestion d'un centre d'accueil à une ONG, l'ONG s'engage à appliquer la loi. Et donc, si la loi d'un pays dit, au bout d'un moment, si vous avez une personne qui a une réponse négative, elle a un mois pour essayer de trouver une solution pour repartir dans son pays d'origine, puisque du coup, elle a une réponse négative, elle ne reste pas sur le territoire. Et du coup, on a des travailleurs sociaux qui nous disent la loi nous demande de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et nous, en tant que Croix-Rouge, ça peut nous poser question. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir que, encore une fois, les choses sont toujours à nuancer. Au sein d'un centre d'accueil, parfois, les personnes sont contraintes de faire des choses qu'elles n'auraient pas forcément envie de faire. Elles sont obligées de se limiter à des prestations, parce que beaucoup, c'est le terme qui revenait en Finlande, c'était le terme de bénéficiaire ou même de client. C'était le terme qui revenait. Les demandeurs d'asile étaient des clients. C'était le terme qui revenait. Our clients, voilà, c'était ça qui revenait tout le temps. Et donc, les choses étaient assez différentes. En Grèce, par exemple, la majorité des centres qu'on a pu voir, qu'on a pu visiter, étaient tenus par l'armée ou la police, avec de temps en temps l'autorisation pour des ONG de rentrer à l'intérieur. Et donc plus la situation est critique, plus l'État garde la main mise. Et donc là, après, c'est assez compliqué de pouvoir se faire un avis sur ce qui s'y passe, sur les conditions d'accueil. Mais aussi, la Grèce est un État qui est en première ligne pour l'accueil des demandeurs d'asile. Et c'est pas l'État le plus riche de l'Union européenne. Et c'est pas le pays où la situation est la plus simple. Donc forcément, ça crée aussi des tensions avec les populations locales. Je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est à peu près clair ce qu'on... C'est pas trop pénible de donner des chiffres comme ça, mais du coup, d'appréhender, voilà, nous, c'est le rôle et l'objectif de notre travail documentaire, c'est vraiment d'essayer d'appréhender les choses dans son ensemble et de casser un certain nombre de préjugés et de, faut le dire, de conneries qui sont pensées à l'égard de, des demandeurs d'asile. Et on a été confrontés à tout un tas de types de... de remarques qui venaient, les demandeurs d'asile roulent dans des voitures, des belles berlines, sont bien habillés, les demandeurs d'asile, on était confrontés à tous ces trucs-là, et c'est pas la réalité qu'on a constatée de manière générale, et ce qui revient aussi, c'est l'opacité l'opacité de la procédure, c'est-à-dire que juridiquement, la procédure est très cadrée. Voilà, il y a des recours qui sont déposés avec un certain nombre de délais imposés. Mais par contre, ce qui fait que la personne qui va traiter le dossier va accorder une réponse positive ou une réponse négative, c'est très compliqué de le savoir. Et en fait, on nous a expliqué, c'était en Belgique, c'était le responsable d'un centre qui nous a dit, il n'y a pas de preuve. Ce qui fait qu'on accorde une réponse positive, c'est la cohérence du discours. On nous a expliqué que les personnes qui instruisaient les dossiers pouvaient parfois poser des questions très, très, très pratiques. Vous nous dites que vous venez de telle région, quel est le nom du fleuve à côté de votre village. Il y a des interprètes qui viennent pour essayer de faire attention à l'accent de la personne, au dialecte qu'elle pourrait parler. En France, basiquement, on pourrait dire que l'accent de quelqu'un qui vient de Lille n'est pas le même que quelqu'un qui habite à Perpignan. Et donc, c'est ce genre de choses. Mais il faut bien avoir à l'esprit que les États qui accueillent n'ont pas les ressources et les moyens de savoir précisément et de vérifier précisément le discours des personnes. Et donc, dans les témoignages ou les avis que l'on a pu recueillir, c'est une question d'intime conviction, en fait. On sait, on a l'intime conviction que la personne délivre un discours qui est vrai, elle a vraiment subi ses persécutions, mais il n'y a pas moyen en fait de le vérifier. Et donc du coup, c'est assez, c'est de l'arbitraire quoi. C'est la capacité pour le demandeur d'asile à convaincre la personne qui le reçoit qu'elle a le droit de déposer cette demande. Et c'est assez terrible en fait, parce que du coup, si vous tombez sur quelqu'un ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Quelqu'un qui va pas forcément défendre son dossier de façon correcte, cohérente, qui va être intimidé, parce qu'il faut savoir en gros que les entretiens pour justement rencontrer la personne qui instruit le dossier, vous attendez parfois 6 mois pour avoir un premier entretien. C'est un entretien qui va durer une demi-heure. Nous, on a vu le cas d'une personne, c'est très compliqué en plus pour un demandeur d'asile de se rendre à ce premier entretien. C'est parfois compliqué, il faut prendre le bus dans une langue qu'on ne connaît pas. Et donc, une personne est arrivée 5 minutes en retard. On l'a refusée à son entretien. Elle a dû attendre encore 4 mois pour avoir ce premier entretien. Enfin, c'est très très long. Et la durée des délais, on a tout vu, quoi. C'est entre quelques semaines, quelques mois à plusieurs années. Et donc, si vous vous mettez à l'esprit d'une personne qui vient, par exemple, du Proche-Orient, qui se retrouve en Finlande parce que c'était compliqué de passer par la voie méditerranéenne, il faut bien avoir à l'esprit que la Norvège a construit une barrière à sa frontière avec la Russie parce qu'en 2015, il y avait 5 000, à peu près entre 5 et 6 000 personnes qui sont passées par là, donc il y a une barrière qui a été construite. Donc, quand vous arrivez en Syrie, que vous êtes, par exemple, syrien, que vous arrivez en Finlande, que vous attendez 2 ans dans un centre d'accueil, que vous déposez une demande, vous avez une réponse négative, vous déposez un recours, vous avez peut-être une réponse positive pour avoir l'autorisation de rester sur le territoire pendant 1 an, il y a de quoi devenir barge, quoi. Et on nous l'a expliqué, des centres tenus par la Croix-Rouge, l'une des grosses problématiques, c'est la problématique psychologique de ces personnes qui sont complètement déprimées, désœuvrées. C'est la fin de l'espoir d'être accueillis en Europe, parce que je peux vous dire que les réactions sont parfois compliquées. Quand vous arrivez en Europe, que vous passez par la Bulgarie et que vous voyez l'accueil qui vous est réservé, du coup, vous dites, mais moi, je risque ma vie dans ce pays, je viens là, enfin, c'est psychologiquement très dur. On a rencontré une personne en Croatie qui nous a dit, mais est-ce que vous croyez vraiment qu'on risquerait nos vies et celle de nos enfants sur le parcours pour venir en Europe si on risquait pas déjà nos vies dans nos pays. Et donc, du coup, ils comprennent pas pourquoi on les a accueillis comme ça. Ça, il y a une incompréhension, du coup. Ce qui est tout à fait compréhensible, hein, parce que, risquer sa vie et puis être à certains endroits accueillis avec des slogans racistes, ou même en Finlande, des centres d'accueil qui ont été incendiés, ça fait un peu bizarre. Et que, du coup, ça, c'est une réelle problématique psychologique. Garder des gens dans un centre d'accueil pendant 2 ans avec l'interdiction de travailler ou l'impossibilité de travailler pour avoir l'autorisation de rester pendant 1 an, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, du coup. Et ça aussi, on peut se demander pourquoi les délais sont aussi longs. C'est parce qu'il y a assez peu de personnes pour traiter ces dossiers-là. Les différents États européens n'étaient pas armés d'un point de vue des... Enfin, ils sont très armés pour monter des frontières et des barrières. Mais en revanche, pour traiter les dossiers le plus rapidement possible et accorder des réponses et faire en sorte que les personnes ne soient pas dans l'attente et ne soient pas dans la détresse psychologique, il y avait assez peu de moyens à ce moment-là. De manière générale, oui.
Vous êtes bien sur Radio LBGS à l'écoute d'une conférence enregistrée le 10 juin 2019 sur la foire de Biocibel. Tout de suite, une petite pause musicale avec The Casualties et leur titre Borders, un titre qui dénonce les frontières, quelles qu'elles soient, dans tous les pays du monde. On écoute ça et on se retrouve juste après pour la suite de cette conférence. Casualties avec Borders, un titre qui dénonce les frontières où qu'elles soient dans le monde et principalement la frontière des États-Unis avec le Mexique, un endroit dont on entend malheureusement trop parler dans les actualités, que ce soit pour parler du mur insensé que souhaite construire le président des États-Unis ou bien du nombre de personnes qui meurent en essayant de la traverser. Mais les frontières, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'elles causent la mort des personnes qui essayent de les traverser. On revient en Union européenne grâce à Céline Izart et Vincent Brugère, deux photographes qui ont parcouru l'Europe et les frontières des pays membres de l'Union européenne et qui nous dressent donc un bilan de l'accueil de l'Union européenne après plusieurs mois de voyage. Une conférence qui a été enregistrée, on le rappelle, le 10 juin 2019 sur la foire de Biocibel à Groyer.
Oui, donc on a essayé en fait de photographier l'ensemble des frontières et des murs qui ont été érigés en Europe. Donc la première frontière, si je ne dis pas de bêtises, a été érigée en 2012, et c'était, oui c'est ça, entre la Grèce et la Turquie, mais là c'est pas celle qu'on voit, bon elles sont non. Pas...
Alors du coup, oui, Pour le deuxième voyage qu'on a fait, on a essayé de se consacrer au territoire et on est parti du principe que le territoire, c'était le reflet de notre ouverture à l'autre. En gros, quand on veut accueillir les gens, on ne dresse pas des barrières. Et quand on ne veut pas les accueillir, eh ben, on peut, c'est ce qui s'est passé à pas mal d'endroits, on dresse des barrières. Les barrières qui ont été érigées sur le territoire européen, il y avait deux logiques. La première logique, c'était d'organiser le flux. Voilà, on essaie d'organiser pour contrôler. Et il y a une deuxième logique qui était une fermeture totale. Par exemple, ici, là, c'est, bah, ça se voit pas très très bien, mais c'est sur un quai entre la Suède et le Danemark, il y a une barrière qui établit une barrière entre les eaux, entre une ligne ferroviaire intérieure à la Suède et les lignes internationales entre la Suède et le Danemark. L'objectif, c'est de contrôler les personnes qui viennent du Danemark et d'établir des contrôles d'identité. Cette barrière-là n'avait pas pour objectif d'empêcher les personnes, mais tout simplement d'éviter le dispersement des personnes pour contrôler leur identité. Oui.
Donc je précise qu'elle a été installée début 2016 et que nous, on l'a photographiée en 2017, elle était toujours en place. Voilà, on la voit un petit peu mieux ici. Et ça, c'est la frontière donc, entre la Norvège et la Russie, celle dont on vous a parlé. Donc on a trouvé que c'était le summum du ridicule en termes de contrôle, mais presque. C'est une barrière qui fait environ 200 mètres. En fait, cette barrière existait déjà, mais elle a été surélevée. Et à l'époque, il y avait environ, je crois, 1000 personnes qui essayaient de...
5500.
5500, oui.
En gros, il faut situer la Syrie, le Proche-Orient, là d'où venait à l'époque le plus grand nombre de demandeurs d'asile. Vous prenez la Suède et la Norvège et la Russie. Et du coup, comme il y avait à peu près ces 5500 personnes qui sont passées là au cours de l'année 2015, la Norvège, pour des questions symboliques, parce qu'on est d'accord qu'elle sert absolument à rien, cette barrière. Elle est érigée au milieu d'un fjord. L'hiver, il fait moins 20 degrés ou moins 25. Elle n'a aucun intérêt. Mais du coup, d'un point de vue symbolique, et c'est ce que disait Céline, c'est vraiment le summum de l'absurdité. Voilà. Mais c'était pour des questions symboliques, sur des effets sur la population, pour montrer qu'il y avait une tentative de contrôle. Donc, il y a cette barrière qui était, c'était au cours de l'été, entre août et septembre 2016, donc en plus un certain temps après. Et donc là, vous pouvez voir, la borne jaune, c'est le territoire norvégien, et la borne rouge et verte, c'est la Russie. En gros, c'est ça. Et donc, cette barrière n'avait vraiment aucun sens, aucune utilité, enfin, elle ne sert à rien, quoi.
Et elle se trouve au milieu de nulle part, d'ailleurs. Ah, là, on ne voit pas très bien, mais celle-ci, en fait, c'est la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Donc nous, on l'a photographié d'un village qui s'appelle Ştit. Et voilà, donc elle est longue de plusieurs centaines de kilomètres.
Ouais. Ouais. Celle-ci, on l'a photographiée plutôt de loin parce que quand on l'observe, c'est une véritable saignée dans cette vallée ou cette plaine. Enfin, je ne saurais pas exactement d'un point de vue géographique. Et on voit vraiment les moyens qui ont été mis. C'est vraiment une barrière impressionnante avec des caméras thermiques qui repèrent les gens à une vingtaine de kilomètres. Et là, l'objectif était très clairement de faire en sorte qu'ils ne rentrent pas sur le territoire. Ça, ce n'était pas dans une optique d'organiser le flux. C'était, on ne veut pas que les gens rentrent et ils ne rentreront pas. À cette époque, quand cette barrière a été érigée, en gros... Pour donner un ordre d'idée, l'agence qui s'occupait des demandeurs d'asile était dirigée par un ancien militaire, un officier réserviste de l'armée. Quand on allait dans les locaux de la Croix-Rouge, point d'information d'accueil de la Croix-Rouge où nous sommes allés, les premières brochures mises à disposition, ce sont des brochures d'aide au retour volontaire. Voilà, donc c'est déjà, ça pose un peu le cadre. Et combiné à cette barrière et aussi la ville de Sofia où on retrouve tout un tas de slogans, voilà, de non-bienvenus aux demandeurs d'asile, fait qu'en 2015-2016, il y avait un climat en Bulgarie qui était un climat d'hostilité affirmé à l'égard des demandeurs d'asile. Voilà, ils n'en voulaient pas, quoi.
Et d'ailleurs, ce centre de la Croix-Rouge où nous sommes allés, nous avons croisé, je crois, qu'une ou deux personnes qui étaient venues prendre des cours. C'est vraiment l'endroit où on a vu le moins de personnes. Donc celle-ci est à Idomeni, donc c'est une barrière entre la Macédoine et la Grèce.
Alors là, c'est un ancien poste frontière grec qui ne servait plus à rien pendant quelques années. Et du coup, à partir de 2016, oui, en janvier 2016, enfin un peu avant, la Macédoine a fermé complètement sa frontière. on constate ce type de barrière, en fait. Et là, s'il y a des couvertures qui sont disposées dessus, c'est parce que les personnes jettent des couvertures dessus pour essayer de franchir les barbelés, en gros.
Et c'est à l'époque de la construction de cette barrière, en fait, où plus de 3000 personnes à Idomeni ont été dispatchées dans des centres d'urgence dans l'aire de Thessalonique.
Alors, il y avait un grand nombre conséquent, il y avait, je crois, oui, même plus, c'était plutôt de l'ordre de 10 000 personnes. Mais du coup, l'État grec avait ouvert un certain nombre de centres d'accueil, et la Grèce, en général, une urgence chasse l'autre. Donc à un moment, l'objectif, c'était de désengorger cette frontière-là. Après, les centres dans l'aire urbaine de Thessalonique étaient insalubres. Donc il a fallu redispatcher ces personnes-là. Donc on les déplace souvent de centre en centre pour faire face à l'urgence. Et à un moment, c'était aussi quand on a, entre guillemets, réglé la question des personnes qui étaient à cette frontière-là, qui étaient massées à cette frontière-là, il a fallu s'occuper de l'urgence des îles de la mer Égée. Et donc, en fait, à chaque fois, il y a une urgence sanitaire qui en chasse une autre.
Encore à la frontière à Idomeni, oui.
Donc là, c'est une borne, enfin, c'est comme quand vous faites construire une maison, il y a des bornes de propriété. Entre les États, il y a encore des bornes qui marquent les différentes limites.
Et on ne le voit pas très bien sur cette image, mais en fait, il y avait une voie ferrée qui a également, en fait, été condamnée par cette barrière. Alors ça, c'est en Autriche.
Oui.
Ouais. Enfin, du coup, on n'a pas la photo qui... En fait, à l'époque où on y était, donc en novembre, octobre-novembre, ouais, c'était vers novembre 2015, vous aviez un passage entre l'Autriche et la Slovénie qui était totalement ouvert, et au point de passage officiel, en fait, vous aviez des contrôles, et là-bas, et la frontière était fermée la nuit. On le verra sur une autre image après.
En gros, vous aviez la route principale qui était fermée tous les soirs avec des contrôles policiers, et à côté, c'est à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, vous aviez cette route de campagne qui était complètement ouverte. Et donc, ça permet de voir que ces barrières qui ont été construites ou ces points de contrôle sont essentiellement destinés à rassurer les populations locales, à essayer de montrer que le pays maîtrise ses frontières. Mais ça, c'est totalement stupide et c'est incohérent. Mettre des barrages, des barbelés ou des contrôles policiers sur une autoroute et laisser une route de campagne comme ça à côté complètement ouverte, ça n'a pas de sens, quoi.
Et ça, donc, c'est la frontière entre la Hongrie et la Serbie et la Croatie. Voilà, donc là, c'est une barrière qui a été érigée en 2015. Oui, c'est ça, 2015-2016. Donc d'abord entre la Hongrie et la Serbie, et ensuite ça a été prolongé avec la frontière croate. Donc voilà, assez impressionnante, celle-ci.
Oui, c'est la plus impressionnante qu'on ait vue. Donc il y a deux rangées de barrières. Il y a une première rangée de barbelés, de grillages. Il y a une voie pour que les véhicules de contrôle puissent passer au milieu. Il y a une deuxième barrière. Et il y a encore un point d'accès qu'on voit ici, où les véhicules peuvent patrouiller. Et on voit très clairement à qui est destinée cette barrière. Parce qu'il y a trois langues qui sont affichées avec des petits écriteaux, où on dit qu'il ne faut pas franchir la barrière. Il y a l'anglais, le hongrois, et il y a ce que je devine être une langue arabe. Donc on voit très clairement à qui est destiné ce mur. Et on n'a pas testé, mais la clôture est censée être électrifiée, en plus. Donc ça... Et c'est vrai que cette barrière-là, elle est assez infranchissable. Et d'ailleurs, ça a été immédiat. Du coup, les personnes ont cherché un autre point de passage.
Et avec encore en 2017 des contrôles de voitures tous les quarts d'heure. Voilà, donc ça c'est... Alors celle-ci, on l'a photographiée un petit peu de loin aussi, mais c'est une frontière entre la Grèce et la Turquie.
Oui, c'est ça.
Oui, donc pareil, on voit très mal, ouais, c'est sombre.
En fait, il y a la frontière qui est située au fond, donc il y a un barbelé qui est situé au fond, et tous les chemins qui conduisent à cette frontière-là sont fermés le soir avec ces barbelés, donc ça crée toute une zone tampon autour de la frontière. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que voilà, les gens ne rentrent pas dans cette zone-là. Et aussi, en 2010, le nombre de passages en Europe par la frontière entre la Grèce et la Turquie était le principal point de passage, en fait, dans le point d'entrée. Et donc, à l'époque, la Grèce s'était fait taper sur les doigts par l'Union européenne en disant « Non, mais bon, vos frontières, c'est bon, c'est une vraie passoire, faudrait peut-être faire quelque chose. » Donc, du coup, en 2011, la Grèce avait projeté de construire une barrière, ce qui a été fait en 2012, même si à ce moment-là, bah, du coup, on avait crié au scandale, même si c'est pas normal, mais bon, c'est quand même l'Union européenne qui demandait qu'il y ait une maîtrise de ces frontières-là. Et du coup, bah, les personnes après sont passées par la mer, forcément. Et il faut bien avoir à l'esprit que la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie, c'est 12,5 km. C'est les 12,5 km les mieux gardés de l'Union européenne. Nous, on a une plaque d'immatriculation française et on est contrôlé en permanence. Mais en permanence, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, dès que vous vous approchez de cette zone frontière, voilà, il y a des contrôles avec des personnes qui sont en civil, il y a des policiers, il y a des militaires. Et l'objectif, c'est de voir si vous transportez pas des gens, en fait. Il n'y a pas de contrôle douanier pour voir si vous transportez de la drogue, de l'alcool ou ce genre de choses. C'est exclusivement des contrôles de personnes. Mais ça donnait lieu à des situations ubuesques. On a fait l'objet de filatures, de contrôles à répétition, parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait là. Un utilitaire avec une plaque étrangère, pour eux, on était des passeurs qui attendaient justement l'accueil de personnes et voilà, pour les faire passer.
Parce que sur une autre image, effectivement, on voit qu'à quelques kilomètres de là, voilà, ici, de la même façon qu'en Autriche, vous aviez un passage qui était totalement ouvert, on en a un aussi également à cet endroit.
Sur les 12,5 km de terre, qui, c'est parce que sinon la frontière entre la Grèce et la Turquie, c'est principalement le fleuve Evros. Mmh. Sur ces 12,5 km, il y a une barrière qui doit faire 3 ou 4 km et il y a des endroits où il n'y a pas de barrière. Encore une fois, ces barrières n'ont pas forcément, enfin, n'ont aucun intérêt et aucune efficacité. Parce que forcément, les personnes après, quand on risque sa vie, si vous ne pouvez pas passer à un endroit, vous essayez de passer par un autre. Et là, on le voit, il y a on ne le voit pas très bien, mais ça, c'est une bande territoriale turque. Et on voit qu'on peut tout à fait passer librement. Il n'y a pas de difficulté à passer là.
Oui, d'ailleurs, là où on peut voir sur... là, on est de retour à Idomeni, où effectivement, donc il y a un panneau qui indique que l'endroit officiel pour passer la frontière se trouve
un peu plus loin.
Un petit peu plus loin. Ouais. Et ça, donc, c'est la frontière autrichienne qui était fermée donc à partir d'une certaine heure le soir. Ouais, bon, là, on voit rien du tout.
On vous l'écrit. Il y a des panneaux qui sont qui indiquent que la frontière est fermée et qu'il faut prendre une autre direction. Et ça, c'est à mettre en contrepoint de justement la petite route de campagne qui est tout le temps ouverte en fait et qui est juste à quelques kilomètres à côté. Et ça, c'est pour l'aspect frontière non accueil, mais on a aussi essayé de cartographier tous les types de centres d'accueil. Et donc, on a à peu près tout vu. Il y a des anciennes prisons, des anciens bâtiments religieux qui sont réouverts parfois. On a vu des châteaux qui avaient été abandonnés, qui avaient été ensuite servis de maison de retraite, qui ensuite avait été convertie en centre d'accueil. On a vu des centres de préfabriqués. On a vu des anciennes casernes militaires. On a vu des locaux industriels. Et donc, les locaux industriels, c'était plutôt en Grèce. On a absolument vu tous les types de bâtiments. Et c'est assez drôle de voir que parfois, sans justement l'afflux de ces demandeurs d'asile, des bâtiments qui seraient restés complètement à l'abandon. Et qu'il y a du coup des bâtiments qui ont été refaits, réhabilités, justement pour accueillir ces personnes. Et la localisation du centre demandeur d'asile, en général, reflète la façon dont le pays souhaite accueillir ou non ces personnes. Quand vous avez des centres de demandeurs d'asile qui sont perdus au milieu de massifs montagneux, de massifs forestiers, qui sont éloignés du centre-ville, la question se pose de comment intégrer des personnes qui sont complètement excentrées du centre-ville et qui n'ont aucun moyen de nouer des échanges avec la population locale. Et de toute façon, comme je vous le disais, il y a des pays où en fait ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils vont donner majoritairement des réponses négatives et que intégrer des personnes qui auront des réponses négatives, c'est pas leur problème. Je caricature un peu, mais c'est très 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 souvent ça. Et il y a en parlant d'intégration et de déplacement aussi, c'est assez l'anecdote, c'est que la plupart des centres d'accueil, il y a toujours énormément de vélos garés devant parce que c'est le moyen de locomotion le plus simple et le moins cher pour se déplacer. Parce qu'il y a une allocation qui est donnée, une allocation de demandeur d'asile, pour situer en Finlande, c'est aux alentours de 300 euros par mois, pour une personne seule. Alors avec ces 300 euros par mois, elle peut être hébergée dans un centre, mais la nourriture est à sa charge, et les vêtements aussi. Et que parfois, l'allocation c'est 90 euros, mais par contre ils ont accès à la nourriture, à l'hébergement et aux vêtements. Donc, du coup, ça permet aussi, encore une fois, de casser un certain nombre de préjugés sur les demandeurs d'asile qui sont très riches, tout ça. C'est pas vrai, c'est absolument... c'est faux. Et aussi, pour donner un ordre d'idée, nous, ça... Enfin, encore une fois, je veux pas taper sur la Finlande, mais moi, ça m'a profondément heurté. Il y a un centre de transit qui se trouve quasiment à la frontière russe, C'est à Youtseno, parce qu'il faut savoir que ce centre, Youtseno, est plus proche de Saint-Pétersbourg, 5 millions d'habitants, que la capitale, par exemple, de la Finlande, Helsinki. Et 5 millions d'habitants, c'est en gros, c'est plutôt 6 millions, mais c'est quasiment la population de la Finlande. Et donc, il y a un fort point de passage, donc il y a un centre de transit, qui est une ancienne prison, qui est perdue, mais vraiment perdue, au milieu des marécages. L'hiver, il fait moins 25, il n'y a pas possibilité vraiment d'en partir. Et donc, ce centre, avec ce marécage tout autour, à moins 25 degrés, il y a des caméras absolument partout, y compris dans les locaux communs, dans les laveries où les personnes peuvent laver leur linge. Donc il y a des caméras de surveillance partout. La police vient faire des rondes jusqu'au milieu des terrains de foot et au milieu de l'aire centrale de la prison. On ne sait pas où pourraient aller les gens, parce que du coup, ils ont été enregistrés, et donc leur empreinte a été prise, ils ont été photographiés, il y a des caméras partout, mais bon, il y a quand même des rondes de police. Et surtout, ce qui nous a interrogés, enfin moi ça m'a fait un peu bizarre, hein, c'est que les dons de vêtements récupérés par ce centre d'accueil sont revendus aux demandeurs d'asile, sous prétexte de faire un effort financier. Je crois que c'était 50 centimes, ou je crois que c'était 50 centimes, donc les personnes devaient payer 50 centimes pour pouvoir acheter des vêtements. Alors on peut se dire 50 centimes c'est cher ou pas, je sais pas, et donc la personne qui nous a visité le centre nous disait bon bah voilà c'est 50 centimes, bah attention 50 centimes à la fois pour un t-shirt mais aussi pour un vêtement très chaud, enfin voilà c'est une somme forfaitaire. Et nous on a vu ces personnes, nous on y était au mois de décembre, les personnes marchaient en tongs dehors. Donc du coup même si c'était que 50 centimes j'avais quand même l'impression qu'elles avaient pas vraiment les moyens d'acheter ces vêtements là quoi. Donc quand vous voyez à la pause entre guillemets que les gens passent d'un bâtiment à l'autre en plein hiver où il fait moins 15, que les personnes sont en t-shirt et en tongs, vous dites que du coup, même si c'est que 50 centimes, je pense que, enfin moi, ça me paraît quand même étrange, quoi. Donc voilà, c'est toujours dans l'optique de demander des preuves d'intégration, de faire des efforts, et voilà, donc ça dépend encore une fois des centres d'accueil. On a vu que c'était différent en Finlande, dans un centre municipal qui n'était pas tenu par le ministère de l'Intérieur. Donc là, les vêtements étaient donnés. Mais voilà, encore une fois, les choses...
Qui était à Helsinki, justement. Mais là, pour le coup, c'était très étrange parce que c'était un centre au départ de transit qui, comme effectivement les procédures sont un peu longues, qui était devenu aussi un centre d'attente. Donc c'était dans un ancien hôtel et qui était tenu par la ville, oui. Et la directrice était une ancienne travailleuse sociale. Et là, il y avait un côté beaucoup plus humain et il y avait effectivement des activités qui étaient mises en place. Comme le centre était situé au cœur de la ville, forcément, ça favorisait les échanges avec la population et la possibilité, en fait, pour les personnes bon, de faire autre chose que d'attendre. D'ailleurs, au niveau des 50 centimes là, dont tu as parlé, on a vu ça que à Youtseno, hein, sans quoi dans d'autres centres, c'était des dons. Et en Belgique, par exemple, il y a un système de points qui est attribué en début de mois. Et les personnes ont, alors je sais, j'ai plus le nombre exact en tête, mais une vingtaine de points. Et ça leur permet d'acquérir des produits de première nécessité.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Albigès sur le 95.4, le 104.2. Ce soir, on vous propose une conférence enregistrée à l'occasion de la Foire Biocibel 2019, une conférence sur les politiques migratoires et les frontières de l'Union européenne.
Chaque système est différent et parfois, en Finlande, les tâches collectives étaient obligatoires mais non rémunérées. En Belgique, du coup, les personnes pouvaient s'inscrire sur un planning pour nettoyer les cuisines, pour nettoyer les locaux collectifs, mais étaient en partie rémunérées. Enfin oui, c'était, je crois, de l'ordre de 2 euros de l'heure à peu près, je crois. Enfin, ça donne un ordre d'idée. Et il y avait ce système de points aussi pour... soi-disant faire œuvre pédagogique et permettre d'avoir à l'esprit le coût de la vie, par exemple, en Belgique. C'est-à-dire que vous avez un quota de points. Si vous voulez un rasoir, premier prix, c'est tant de points. Si vous voulez avoir plutôt un gilet ou quelque chose, c'est tant de points. Si vous voulez avoir un gel douche de cette marque, c'est tant de points. Si vous voulez avoir autre chose. Donc voilà, donc c'était aussi pour... c'était dans la façon dont on avait présenté les choses. Et encore une fois, les logiques sont très, très, très différentes d'un centre d'accueil à l'autre. Et aussi, il y a des centres où la population n'est pas toujours la même. C'est-à-dire qu'il y a des centres qui sont spécialisés sur les hommes majeurs seuls. Vous avez des centres qui sont plutôt dédiés aux familles. Vous avez des centres d'accueil pour les mineurs isolés. Vous avez des centres plutôt pour les femmes seules. Enfin, ça dépend aussi parfois c'est très différent. Et aussi, il y a les centres d'accueil pour les mineurs qui sont pas du tout, qui présentent pas les mêmes prises en charge. En Finlande, c'est très différent. Ce qui fait que quand vous avez un mineur qui devient majeur, on a visité un centre où il y a entre guillemets une semaine d'intégration. Le jeune vient visiter le centre, il comprend comment ça marche et après il intègre le centre d'adultes avec un référent qui lui est attribué parce que c'est pas la joie et que au début on comprenait pas trop par exemple pourquoi il y avait autant d'associations qui proposaient des rencontres de sport et notamment des matchs de foot. On se disait l'aide aux demandeurs d'asile, des matchs de foot, ça paraît un peu étrange, enfin assez léger. Et en fait, on se rend compte que c'est fondamental parce que le temps, c'est une horreur, en fait. Quand vous ne pouvez pas travailler, que vous n'avez pas nécessairement l'argent pour avoir un abonnement téléphonique pour joindre votre famille qui est restée au pays, parfois, parce que ça, c'est toujours la même chose. Hein. On vous dit, regardez, les hommes, ils partent seuls, ils délaissent leur famille au pays. Je peux vous assurer que moi, je ne voudrais pas jamais avoir à réfléchir avec ma compagne. Si on avait des enfants, on fait quoi? Je pars tout seul, tu viens avec nous, on emmène les enfants, on les emmène pas. Moi, je voudrais jamais être confronté à ces problématiques-là. Donc, porter un jugement en disant, ouais, les hommes sont des lâches, ils quittent leur famille, ils laissent les femmes et enfants au pays. Moi, je voudrais jamais être confronté à ce dilemme-là. Et donc, du coup, pourquoi ces matchs de foot et ces rencontres sportives? C'est parce qu'en fait, quand vous vous réveillez le matin à 9h, que vous avez passé une nuit horrible, parce que vous vous demandez ce que votre famille fait au pays, entre 9h... vous vous réveillez et le soir où vous allez trouver le sommeil, il faut vous occuper. Vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas d'argent. Vous faites quoi? Et du coup, on se comprend que ces rencontres sportives, ces activités diverses et variées, en fait, ça permet aussi aux personnes d'occuper le temps et de se libérer, de se détendre un peu, parce que je peux vous assurer que c'est un truc terrible. Enfin, on a rencontré des personnes... c'est une angoisse permanente quoi, quand vous laissez vos enfants. Et puis en plus, vous arrivez dans un pays... moi, par exemple, le droit syrien, j'y comprends rien. J'imagine qu'un Syrien qui vient en France ou en Belgique, il comprend que dalle au système d'accueil, il comprend absolument rien au dépôt d'un dossier de demande d'asile. Et donc, il attend pendant 3-4 mois. Et en plus, comme pas de chance, entre guillemets, il est venu seul, il est considéré comme un homme seul. Qu'il ait de la famille au pays, c'est pas la question, il est considéré comme seul. Donc il est absolument pas prioritaire pour le traitement de sa demande, donc il va attendre. Parfois 6 mois, 1 an, sans savoir quoi faire, sans avoir la possibilité de travailler, et donc du coup, toutes les aides qu'on a pu voir, même des choses mineures, en fait ça prend un intérêt fondamental pour ces personnes. Par exemple, l'organisation de vente de gâteaux. On se dit, quel peut être l'intérêt, voilà. Et en fait, c'est fondamental parce que ces personnes n'ont pas le droit de travailler. En revanche, les structures associatives ont le droit, par exemple, d'organiser des ventes de gâteaux, de soutien aux réfugiés, mais elles ne disent pas que c'est une façon de leur reverser de l'argent, parce que sinon, ça serait perçu comme une rémunération. Sauf qu'elles n'ont pas le droit de travailler. Et donc, du coup, si elles sont en situation illégale pendant leur demande d'asile, ça peut leur poser d'énormes problèmes. Et donc, du coup, il y a tout un tas de choses périphériques à l'accueil, à la possibilité d'aider les gens qui paraissent anodines dans un premier temps, mais qui, en fait, pour ces personnes, sont fondamentales, quoi. Et la chose aussi qui change radicalement leur vie, c'est d'obtenir une réponse positive. Et ça, on n'a aucunement la mainmise là-dessus. Et aussi, on a rencontré en Autriche des gens qui, du coup, avaient des réponses positives. Mais là commence une autre galère. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez une allocation qui vous permet de rester dans un centre d'hébergement en attendant votre réponse. Mais quand vous avez une réponse positive, vous devez partir de ce centre d'accueil. Vous n'êtes plus demandeur d'asile, vous êtes réfugié. Et à partir de ce moment-là commence le parcours du combattant. Et donc, du coup, la personne doit quitter le centre d'accueil et doit devenir autonome et doit chercher un travail. Et donc là, ça devient extrêmement compliqué. C'est un autre parcours du combattant qui se met en place, à savoir trouver un travail, devenir autonome et ensuite éventuellement pouvoir faire venir sa famille. Enfin, c'est relativement complexe et une difficulté en chasse une autre. Et quand vous ne maîtrisez pas la langue, c'est des choses qui sont extrêmement complexes, et moi, je ne voudrais jamais être confronté à ces problématiques-là. Et en plus, il y a des choses qui sont d'un vice, mais profondément malsain. C'est que, par exemple, en Autriche, on l'a vu, les personnes doivent attester de leur capacité à s'intégrer. Donc, elles doivent prendre des cours, elles doivent passer des tests en allemand, elles doivent démontrer leurs compétences, leurs possibilités à devenir une personne active dans la société. En Finlande, ça on nous l'a vu, il y a un travailleur social qui nous l'a dit, mais c'était un truc mais terrible d'entendre ça. Le travailleur social nous a dit, en Finlande, c'est un peu plus subtil. C'est-à-dire que vous devez démontrer votre capacité à vous intégrer, mais pas trop. Parce que c'est-à-dire qu'on nous a dit, si une personne qui vient d'une culture aussi différente, par exemple, que la Syrie, peut s'adapter très rapidement en Finlande, c'est-à-dire maîtriser très rapidement la langue, qui est pas simple, qui peut très rapidement trouver un travail, c'est qu'elle a une capacité d'intégration telle qu'elle pourra s'intégrer partout ailleurs. Donc pourquoi l'accueillir en Finlande si elle peut se démerder ailleurs ? Ben, je peux vous dire que ça, ça fait drôle. Donc on vous dit, pendant la procédure, faut que la personne démontre sa capacité à s'intégrer, mais quand même pas trop. Alors qu'en Autriche, du coup, c'est pas du tout la même logique, c'est qu'il faut le montrer. Et c'est terrible quand vous rencontrez des demandeurs d'asile qui vous comprennent pas nécessairement qui on est, et au cas où on pourrait être quelqu'un qui a un lien avec une administration, prennent l'habitude de nous dire « Non mais l'Autriche, c'est un très chouette pays d'accueil, tout ça. » Alors que l'Autriche, c'est pas terrible, hein, faut être, voilà, c'est, voilà, le taux de réponse positif est pas forcément très élevé. Voilà, l'histoire, enfin, comment dire, la volonté d'intégrer n'est pas non plus la panacée en Autriche. Donc voilà, donc on voit que les personnes aussi prennent un moment l'habitude d'essayer de montrer qu'elles sont volontaires, ce qui peut se comprendre. Et il y a un moment, il y a une sorte de dévoiement du discours et que bah, nous, vous pouvez nous dire vraiment, l'Autriche, c'est pas génial, quoi. Enfin, on le sait. Et que il y a des logiques comme ça qui sont intégrées et assimilées, qui sont absolument horribles. Et il y a aussi, peut-être un dernier point, comme les personnes ne savent pas en vertu de quels critères elles vont recevoir une réponse positive, on dit toujours la Convention de Genève. La Convention de Genève, déjà, il y a un truc qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'elle parle d'un groupe, toujours. Alors qu'une demande d'asile statue sur une personne. Donc ça, c'est très compliqué. Enfin bon, elle est vraiment mal rédigée, hein, cette convention. Mais bon, c'était dans les années 40-50. Bon, elle n'était pas adaptée au contexte contemporain. Donc ça, c'est toujours très drôle. Des pays qui vous disent « Oui, mais nous, c'est que la Convention de Genève. » Oui, bon, on est d'accord, mais c'était dans un contexte de définition du droit d'asile qui n'est pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. Donc c'est pas adapté. Mais bon, c'est toujours pratique de se référer un contexte pas adapté pour justement refuser des gens aujourd'hui. Bon. Et donc, du coup, comme on ne sait pas quels sont les critères, on le voit au sein de certains centres, il y a des personnes qui, en Finlande, ne faisaient pas la démarche d'essayer de s'intégrer, des personnes seules qui avaient des réponses positives, alors que vous aviez des familles dont les adultes, les parents, essayaient de montrer, de donner des preuves d'intégration, qui avaient des réponses négatives. Et ça, dans le flou des critères, du coup, d'attribution, ça crée des tensions. Souvent, on l'a entendu à un moment, « Oh, ben en Grèce, dans les centres d'accueil, oui, forte tension entre les communautés. » On peut se dire, mais pourquoi les personnes au sein des communautés en arrivent à des agressions armées, enfin des agressions physiques ? Mais c'est tout simplement parce qu'il y a aussi une incompréhension totale des critères d'attribution d'un statut de réfugié ou non. Quand vous voyez qu'il y a une communauté où il y a un taux, par exemple pour les hommes seuls, il y a un taux de réponse positive qui est plus élevé, alors que vous venez d'une zone géographique qui est considérée comme moins dangereuse, moins à risque, et que vous êtes là avec vos gosses et que c'est super pénible, que vous, depuis 4 mois, vous dormez dans une usine désaffectée, vous ne comprenez pas. Et forcément, au bout d'un moment, ça crée des tensions. Et que les tensions entre les communautés au sein des centres de demandeurs d'asile, c'est pas parce que les gens sont plus agressifs, parce que les gens sont plus méchants, mais vous mettez en France, ou même à un moment, on nous l'a dit, hein, vous mettez en Belgique des Flamands et des Wallons ensemble, en vase clos, dans une usine désaffectée pendant un certain temps, ça va être le bordel, quoi. Et donc, du coup, c'est normal. C'est que, enfin, je veux dire, on peut mettre... entre guillemets, des Français de souche dans un centre désaffecté pendant 4 mois, je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, ça a dégénéré, quoi. Et donc, voilà, il faut avoir les éléments aussi explicatifs et le contexte de toute cette actualité qu'on nous dit, de toutes ces violences entre communautés. Il faut pouvoir les remettre en contexte. Et en fait, voilà, il y a tout à fait des facteurs explicatifs compréhensibles et qui n'ont rien à voir avec la nature supposée de ces personnes ou les qualités qu'on voudrait bien leur accorder, quoi. Voilà.
Oui, d'autant plus qu'on le sait, au moment de la crise, entre guillemets, il y avait par exemple des chambres qui pouvaient accueillir 4 personnes qui se sont retrouvées à en accueillir 8. Des centres qui avaient une capacité de 400 personnes qui se sont retrouvées avec 1000 personnes. Donc effectivement, il y avait une surpopulation un peu compliquée
à mettre en place.
Ouais. Je crois qu'il faudrait poser la question dans un micro pour
qu'on puisse avoir votre...
Oui.
Ouais, je voulais juste vous demander, comme vous n'êtes pas journaliste, comment vous avez accédé à ces différents centres et aux différentes personnes qui s'occupaient des...
Ça, en fait, c'est grâce à notre manière de faire qui est de prendre le temps et d'être toujours transparent dans notre démarche. En fait, quand on a fait le premier voyage, on s'est intéressé d'abord aux personnes et on a pris le temps de contacter les associations, les différents organismes qui s'occupaient de l'accueil. Et à partir du moment où on a eu le premier oui, donc ça nous a pris quand même 4 à 5 semaines en Allemagne avant que quelqu'un nous autorise à faire les premiers portraits. De là, on a pu vraiment exprimer notre démarche et être transparent sur ce qu'on faisait. Et c'est Caritas aussi qui nous a permis ensuite de rencontrer pas mal de personnes en Autriche. Et une fois que vous avez les premières photos, en fait, et qu'on comprend que votre démarche est... en quelque sorte humaniste, en fait, et qu'on essaie vraiment d'expliquer les choses et de ne pas profiter de la situation. Ça nous a permis de...
Et les photos, vous les avez montrées à par exemple, des photos d'Autriche, quand vous êtes en Finlande?
Oui.
Je réfléchis. Oui. Pour répondre de façon, par exemple, un tout petit peu plus précise, alors, pour la question du premier voyage et des portraits, donc là, c'était un peu plus compliqué parce que c'était vraiment au climax de la crise, fin 2015. Donc là, on a eu accès à tous les centres qui étaient dans des pays de non-transit, c'est-à-dire en Autriche, en Allemagne. Donc là, on se présentait au centre d'accueil, on leur disait, voilà, alors ça dépend. Parfois, c'était de façon informelle, on allait voir la personne à l'accueil, on demandait si on pouvait, si on pouvait pas. Ensuite, en Autriche, on a contacté les gens de façon formelle, on a été accueilli par un responsable administratif. Et donc là, comme le disait Céline, ce qui fait la différence, c'est que si vous êtes dépêché par un organe de presse, en général, vous avez un temps limité. Nous, on leur dit, on a le temps. C'est-à-dire qu'on rencontre la personne et on dit « Mais donc, du coup, vous voulez rencontrer les demandeurs d'asile quand ?» Quand c'est possible. Donc ça, il y a un premier responsable administratif qui valide. Ensuite, on rencontre le responsable du centre. Lui, on discute avec lui, on lui dit « Demandez aux personnes dans le centre d'accueil qui seraient d'accord pour nous rencontrer. » Ensuite, on rencontre les personnes, les demandeurs d'asile. On leur dit parfois « Bon, si vous n'êtes pas chaud bouillant pour qu'on fasse votre portrait, on peut revenir, prenez le temps de réfléchir. » Et donc là, on revient si les personnes sont d'accord pour prendre le temps de réflexion. Et parfois, on fait les photos tout de suite si les personnes sont d'accord tout de suite. Et ensuite, une fois qu'on a fait les portraits, on revient pour leur donner les portraits. On les fait tirer, voilà, on leur donne sur papier. Donc tout ça, ça prend un peu de temps. Ça, c'était plutôt dans les pays d'accueil, pas de transit. En Croatie, ça a été un peu plus compliqué. C'était un pays de transit. La Croix-Rouge a été d'accord pour nous mettre en contact avec des personnes. On n'a pas fait de portraits, non pas parce qu'on n'a pas rencontré de personnes, mais parce que les personnes étaient dans des situations difficiles où elles ne se sentaient pas. Et nous, du coup, quand vous êtes face à quelqu'un qui fond en larmes, vous n'avez pas sorti votre appareil photo, lui braquer votre objectif pour avoir les chaudes larmes qui coulent du visage, ce n'est pas terrible, quoi. Ensuite, en Bulgarie, on est passé aussi par d'autres structures que l'État. C'était une association qui était plus focalisée sur les femmes. Parce que c'est tout bêtement, je veux dire, il y a des besoins physiologiques qui sont un peu différents, l'allaitement, enfin tout un tas de choses. Donc voilà, une association d'aide qui intervenait plus précisément auprès des femmes, qui nous a mis en contact avec des demandeurs d'asile en Bulgarie. Donc c'est comme ça qu'on procède, en prenant le temps, en passant par des intermédiaires. Pour les centres et tous les locaux qu'on a pu photographier à la fois intérieur et extérieur, c'était en 2017. Donc là, le gros de la crise était passé. Et donc là, on a pu rentrer dans à peu près tous les centres, que ce soit des centres d'État en Finlande, en Belgique, des centres désaffectés en Grèce, des centres d'ONG. Du coup, en fait, c'est le même protocole. Il faut aller voir les gens, il faut leur demander s'ils sont d'accord ou pas. Et sur l'ensemble des pays qu'on a pu faire, la majorité a été d'accord, quoi, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. On n'a pas eu trop de difficultés, mais par contre, il faut avoir le temps et pas brusquer les gens. C'est ça qui... Et ensuite, quand vous avez un premier des éléments à montrer, et aussi comme on joue la transparence, on le disait aux gens, vous pouvez contrôler nos photos après, quoi. On les volera pas, quoi. Voilà.
Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez rencontré durant votre voyage des initiatives, des alternatives, par exemple, je sais pas, des accueils de la population positif ou un peu d'entraide ou oui. Un peu autre chose que des centres de contrôle et de
et d'accueil, oui. Quoi. En Autriche, par exemple, on on était en contact avec des enseignants étudiants qui organisaient des cours de langue, justement, puisqu'en Autriche, c'était payant. Les cours officiels étaient de l'ordre de quelques dizaines d'euros. Et du coup, toutes les semaines, il y avait des cours de langue qui étaient donnés par des enseignants étudiants. Donc, il y avait ça. Il y avait des initiatives d'associations culturelles, par exemple dans un musée où c'était des rencontres entre les habitants et les personnes demandeurs d'asile.
Il y avait beaucoup ce qu'ils appelaient les Willkommen Fest, c'est-à-dire c'était pas que des fêtes, mais tenter de nouer des liens avec la population locale. Et encore une fois, même si l'État autrichien n'est pas forcément super super accueillant, la population parfois, et c'est toujours à nuancer, on a rencontré quand même des initiatives locales d'accueil à la fois pour essayer de faire dialoguer. C'était un moment, ils appelaient ça comme ça, les rencontres de nouveaux voisins, pour justement faire en sorte que d'intégrer les personnes qui avaient aussi reçu des réponses positives. Et on a éminemment rencontré à la fois des initiatives d'accueil très chaleureuses, très ouvertes, et aussi dans certains pays des initiatives de non-accueil et on en a vu, et heureusement, et que parfois ça permet un peu de se rassurer sur la nature humaine, de voir que certaines populations locales essayent fondamentalement d'accueillir et de faire quelque chose, quoi. Oui, oui.
Et le plus simple aussi et le plus accessible, c'était les cafés linguistiques. Voilà, pour pouvoir discuter avec les personnes et en même temps partager une nouvelle langue.
Essayer de mettre un peu d'humanité dans ce temps d'attente et dans ces procédures qui prennent un temps infini.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Albigès. Ce soir, on vous propose une conférence enregistrée à l'occasion de la foire Biocibel 2019, une conférence sur les frontières de l'Union européenne et les politiques migratoires.
Des personnes aussi qui viennent faire des dons auprès des centres, je sais pas, non ?
Oui, on a vu dons de vêtements, dons d'argent, mais beaucoup dons de vêtements, enfin dons en nature, oui. On a vu aussi du temps accordé pour les cours de langue, parce que la langue, c'est quelque chose de crucial dans certains pays, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le niveau linguistique requis, vous ne pouvez pas avoir de réponse positive. Des soirées de bienvenue où là on essaye de faire découvrir un peu la culture locale. On a vu aussi une administration autrichienne qui organisait une visite d'aéroport pour justement montrer quels pouvaient être les emplois possibles pour les personnes qui avaient eu des réponses positives, pour qu'elles puissent candidater, pour essayer de trouver un boulot.
Et mettre en contact aussi du coup des employeurs et des futurs employés.
Oui, c'est ça. Donc, don de vêtements, don d'argent, les cours, parfois, effectivement, mettre en contact les réfugiés avec de potentiels employeurs.
C'était en Autriche, ça ?
Oui. En Autriche, oui.
D'accord.
En Belgique, par exemple, dans un centre tenu par Caritas, comme il était près des scouts, il y avait les scouts qui venaient très souvent voir les enfants. C'était un centre où il y avait vraiment beaucoup d'enfants. Oui. Il y avait aussi, pas mal de bénévoles, donc des habitants du quartier qui venaient du coup pour ces cafés linguistiques ou pour des cours de cuisine aussi, ce genre d'action.
Oui, et puis du coup, on voit aussi l'ouverture du centre et le dialogue avec l'environnement. Vous voyez des centres avec des barbelés qui sont isolés, puis il y a des centres où il n'y a pas de clôture, il n'y a rien du tout. Et on voit que les interactions sont vachement plus développées. Et quand vous avez, par exemple, un directeur de centre qui tous les mois ou tous les deux mois fait une réunion avec les habitants du coin pour savoir s'il n'y a pas de problème, si ça se passe bien, et puis ça permet aussi de montrer aux habitants, aux locaux, que on prend en compte leur avis, et que quand c'est fait de façon intelligente, ça marche bien, quoi. Mais ça, après, ça dépend des personnes et de leur volonté de faire quelque chose, quoi. Ouais.
Je peux compléter pour la solidarité, parce qu'on parle de solidarité avec les organisations, mais par exemple pour la Grèce, moi j'ai rencontré une solidarité extraordinaire entre les gens qui étaient dans la misère, et la plus grosse solidarité directe qui se faisait, les gens, parce que la Grèce est un pays extrêmement pauvre, qu'on a complètement anéanti économiquement, et c'est les gens dans la rue, les Grecs dans la rue, qui étaient solidaires. Il y avait une solidarité très forte entre les Grecs dans la rue et les migrants. Quand il y a des municipalités comme le maire de Lesbos, qui a été très accueillant, et que tout le monde a entendu parler de l'île de Lesbos et de cette traversée, ce génocide sur cette traversée d'ailleurs, eh bien, toute la population... confronté aussi avec l'Aube Dorée, qui n'est pas un mouvement d'extrême droite, comme on peut le lire dans la presse, mais qui sont un mouvement néo-fasciste et qui est représenté au Parlement. Bon, c'est vrai qu'il y a des confrontations, mais la Grèce n'a aucun moyen financier pour les étrangers, pour les migrants. Tous les moyens financiers... le budget qui est donné à la Grèce, soi-disant, que l'on peut lire, ça va... au Frontex. Et ça, il ne faut pas oublier, le Frontex, c'est la surveillance des frontières, une organisation européenne qui n'a rien à voir avec les directs aux migrants. Et c'est le gros problème de la Grèce. Et le Frontex, il y a eu des remaniements et des changements dans le Frontex parce que les pays, c'est chaque État qui était responsable des étrangers qui arrivent sur leur territoire. Et pour enlever de ces prérogatives, parce que la Grèce ne pouvait pas agir, on veut donner plus de force au Frontex ou à l'organisation équivalente qui s'organisait, se structurait pour barrer les frontières. Voilà. C'est une petite précision. Mais le peuple grec est extrêmement solidaire et c'est le peuple grec, comme ils l'ont bien précisé, qui est le plus touché avec cette arrivée. Je dirais que on doit défendre le fait qu'il faut des droits pour tous. Tout le monde a le droit d'avoir des droits. Hein. C'est quand même le principe de base de la pensée d'Hannah Arendt sur le totalitarisme. Et maintenant, on arrive à avoir des citoyens du monde qui n'ont aucun droit. Aucun droit d'existence. Et c'est ce que Hannah Arendt a... toute son étude sur le totalitarisme et les camps, l'Allemagne, enfin, etc., sur cette base-là. Et on se retrouve dans une situation qui est assez équivalente. Il y a des gens qui n'ont pas d'existence et pas de droit d'exister, qui sont dans des camps. Il y a les bons et les mauvais migrants, comme ça a été précisé. On a fait des déportations en Grèce, de retour de migrants. J'ai vu des franchissements de bateaux militaires turcs de la frontière, justement, sur Lesbos. J'ai pensé que ça pourrait faire un scandale européen, que ça pourrait avoir des... Non, pratiquement sur la plage, récupérer des migrants sur la plage pour les ramener en Turquie. C'est à l'époque où on a donné un budget assez fort aux Turcs pour avoir les migrants. J'ai vu des migrants avoir des gilets de sauvetage orange et qui ressemblent à des gilets de sauvetage parce qu'il y a un business derrière, c'est pas toujours la solidarité. Vendus en Turquie, des choses, vous les mouillez, hein, vous couliez. Bon, c'était faux, le gilet de sauvetage, mais parce qu'il y avait un manque, une pénurie de gilets de sauvetage, des gars qui fabriquaient des gilets de sauvetage. Enfin bon, il y a des choses, les frontières sont... les frontières et les centres. En Grèce, j'étais avec une ONG pour délivrer de l'eau en centre. On n'a pas d'accès dans les centres parce qu'on dit tous les réfugiés qui arrivent en Grèce, après, ils sont partis en Europe. Non, ils ne peuvent pas bouger. Ils arrivent sur des îles. Ils quittent les ferries en ferry ou en bateau militaire encadré par l'armée. Ils vont d'un autre camp à un autre, des camps extrêmement insalubres. Hein, et qui sont gardés par l'armée, par l'État. J'étais avec l'ONG pour donner de l'eau en plein été. On nous a défendus. On avait des cartons d'eau. On nous a défendu de rentrer. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce qu'il y avait des risques d'émeutes pour arriver à se répartir l'eau. Alors il valait mieux les laisser sans eau que de pouvoir leur livrer de l'eau parce qu'il y avait des risques d'émeutes. Bon, voilà, je ne vais pas m'étendre sur l'absurdité
ce que vous avez dit là, on l'a aussi constaté, c'est que, ou même il y a des tas de témoignages sur Internet d'ONG qui à un moment voulaient apporter des jouets pour Noël, qui se sont vus interdire l'accès au centre d'accueil. Et que la question de la Grèce, à un moment, il y avait cette politique de maintien en Grèce, ce qui fait que de toute façon, les personnes qui rentraient en Grèce devaient rester en Grèce, et que l'accord qui avait été passé, je crois, c'est en 2016, à peu près, oui, premier semestre 2016, entre l'Union européenne et la Turquie, c'était pour effectivement un maintien et un retour sur les territoires turcs, moyennant des moyens financiers qui avaient été versés par l'Union européenne à la Turquie, et que l'objectif, c'était de garder, de contenir cette population en Grèce, mais que la Grèce n'avait pas forcément les moyens aussi de gérer cette population-là. Et à la fois, par exemple, à Athènes, il y a un quartier d'Athènes, Exarchia, qui est très favorable aux migrants. Et on a aussi vu des centres d'accueil qui avaient été pillés aussi pour les stocks d'eau. Donc, la situation est très compliquée. Et encore une fois, la situation grecque est au moins autant due à l'attitude des pays limitrophes et à l'Union européenne que aux causes qui ont poussé les personnes à fuir leur pays. Et donc voilà, et à un moment, c'est très compliqué. Et encore une fois, on le voit toujours, le réflexe en cas de crise, c'est que l'État garde la mainmise sur les centres. Et en Grèce, les centres sont tenus principalement, enfin majoritairement par la police et l'armée, qui autorisent de façon aléatoire les ONG à rentrer dans ces centres-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'une ONG va pouvoir donner de l'eau ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'une ONG va pouvoir distribuer des jouets pour Noël ou pas? Ça, c'est extrêmement compliqué. Et qu'après, nous, on a déjà essayé, les centres tenus par la police, on arrive, bah non, vous rentrez pas, voilà. Et que c'est passible de prison, c'est bien écrit, et qu'on ne rentre pas dans ces lieux comme ça, quoi. Et c'est assez compliqué. Et quand on les visite une fois qu'ils sont désaffectés, on voit qu'ils ont été les installations ont été faites à l'arrache pour faire face à l'urgence, que les centres ont été vidés parfois en quelques jours et la population dispatchée pour faire face à une autre urgence, et que la situation grecque, mais c'est un bazar sans nom, parce qu'il n'y a aussi pas la volonté de faire en sorte que les choses se passent bien, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un pays qui est une zone qui est le troisième foyer de peuplement au monde, qui n'est pas les plus pauvres, hein, c'est le troisième pôle économique mondial, l'Union européenne, ne fait pas face dignement à ça. C'est parce qu'aussi, il y a une certaine volonté de dissuader les gens de venir. Plus c'est la misère, et moins on pense que les gens ne viendront pas, quoi. Et ça marche pas, quoi. Enfin...
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, moi, je me demandais au niveau... s'il y a des nécessités médicales, est-ce qu'il y a un minimum d'accessibilité dans ces centres? J'imagine que ça dépend des centres. Je voulais savoir un peu.
Alors, oui, ça dépend vraiment des centres et puis des situations géographiques. En Grèce, j'avais lu que justement dans ces fameux hotspots, il y avait un médecin pour tout le centre ou ce genre de choses. Après...
Il y a eu un rapport de l'UNHCR qui fait état justement des conditions sanitaires, on peut encore le trouver sur internet, qui fait état de la situation sanitaire de chaque pays, et vous avez les standards définis par l'ONU. Par exemple, c'est une douche pour 20 ou 25 personnes, si je vous dis un chiffre au hasard, et on voit que les conditions sanitaires minimales définies par les standards de l'ONU, par exemple, ne sont pas respectées. Vous avez une permanence de dentiste par semaine, par exemple, pour 500 habitants. Le dentiste, on peut se dire, ouais, mais bon, c'est un peu du luxe. Non, c'est pas du luxe, hein, quand c'est une réelle problématique de santé. Et que, non, il y avait vraiment des problèmes de salubrité. Vous avez l'un des plus grands centres qui était une manufacture de tabac, où il y avait 4 ou 5 000 personnes, je crois, dans une usine avec des murs en béton. C'était des bacs acier qui faisaient la toiture, où il fait 40 ou 45 degrés. Que vous avez un nombre de personnes au mètre carré qui est assez important. Enfin, c'est, d'un point de vue sanitaire, il y avait une réelle crise et un réel problème d'accès aux soins et à l'eau. Et puis parfois aussi, dans les critères, donc il y a les douches, il y a les toilettes, il y a les robinets qu'on prend en compte, il y a aussi l'accès à l'électricité, parce que mine de rien, recharger son téléphone parfois pour essayer d'envoyer un message à sa famille restée au pays, je peux vous dire que là, ça peut paraître du luxe, mais ça l'est pas. Et il y a l'ensemble de ces données, et très souvent, on n'est pas au standard des minimums et des prérequis de l'ONU, par exemple, et on n'y est pas du tout. Et que il y a aussi l'accès aux transports en commun, enfin tous ces trucs là et parfois on n'y est pas toujours. Non.
Oui, je voudrais préciser quand même, dans les centres d'accueil, on n'a pas besoin d'aller très loin. Quand je vois des témoignages de jeunes qui sont passés dans des centres d'accueil, il y a eu des téléphones maintenant, des films, et on peut appeler les centres de rétention de Cornbarieux, des choses comme ça. Les conditions en France de certains temps, certains centres ne sont pas non plus... En Grèce, j'ai eu l'occasion de visiter, là c'est la visite à côté de Ralkida, 60 km au nord d'Athènes, un centre magnifique. C'est le centre pilote, le centre modèle, le centre pour être visité pour les institutions, la presse, des choses comme ça. Un centre avec des bungalows, des parpaings, avec des fleurs, etc. Quelque chose de très beau. Alors, il y a aussi une vision qui peut être faussée par les autorités, par les visites officielles, etc. Avec des centres pilotes, par exemple, ça existe aussi. C'est un. Et enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, je connais bien la Grèce. J'ai été entre autres avec le HCR et donc j'ai été bien impliqué sur la Grèce. Et il y a dans la Grèce, l'accueil en Grèce. Il y a des réfugiés partout. Mais qui dorment dans la rue et dans les villages, et c'est vrai que la solidarité des gens pour leur donner à manger, l'accompagnement qu'il peut y avoir est très important. Pas des structures linguistiques et des choses, mais sur le tas, bon, ils apprennent. Quand on a une langue minoritaire, on apprend très vite une langue, hein, parce que je suis étonné. Certaines fois, j'étais étonné par le grec qui est parlé par des étrangers comme ça qui se retrouvent, et mon grec qui est correct, mais loin d'être aussi bon que en comparant le temps dans lequel ils arrivent à apprendre une langue qui est encore une langue minoritaire et qui est encore une langue qui ne va pas les aider pour parce que la Grèce, il n'y a aucune issue pour les Grecs et donc et pour les étrangers. Et alors donc pour aller après à l'extérieur, c'était pour rebondir sur la Finlande. Bon.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions?
Oui.
Oui.
Une dernière.
Allez-y.
Je voulais savoir comment étaient conditionnées les constructions de ces centres. Est-ce qu'il y a différentes manières de monter des centres? Est-ce qu'il y en a qui se sont faits comme ça, un petit peu de manière... Ou est-ce que c'est forcément totalement légiféré et contrôlé par l'État? Est-ce qu'il y a, par exemple, à l'Enerkia, je ne sais pas comment ça s'est passé pour monter ce centre.
Alors, pour la configuration même des centres, il n'y a pas vraiment de législation. En revanche, les principes d'organisation, c'est très souvent des principes logistiques. L'accès à l'eau, aux douches, mais après, et on a vu vraiment tout un tas de configurations de centres différents. Et c'est bon, oui. Et du coup, j'aimerais bien vous montrer quelques images de centres totalement différents. Il n'y a pas vraiment une structure type du centre, non. Et on n'a pas, à ma connaissance, de législation spécifique qui dit que là, il va y avoir les douches ici, il va y avoir l'organisation même, non. Et on a vraiment vu tout type, les anciennes casernes militaires, les préfabriqués, les anciens bâtiments religieux, les écoles, les anciens hôpitaux. Parfois, on a vu même des centres de demandeurs d'asile dans des hôpitaux encore en service. Il n'y a pas un centre type qui se détache.
Et alors, je viendrai compléter ou vous préciser. Est-ce qu'il y a des centres qui se sont montés de manière, on va dire...
Spontanée.
Spontanée, voilà, merci.
Oui.
Et qui ont réussi à ne pas se faire virer, quoi.
Non, ils ne restent pas. Non. Tous ceux qu'on a pu voir, que ce soit... Alors, deux exemples différents. Que ce soit à Calais, les centres spontanés sont immédiatement nettoyés en centre-ville, sauf la jungle. Enfin, ce qui est appelé la jungle, c'est un mot que j'aime pas trop, mais... Sauf ce grand centre-là qui, sans doute, n'a pas été démantelé très rapidement parce qu'il y avait énormément de gens et c'était situé dans des dunes aussi. C'est un terrain un peu plus compliqué. Mais dans tous les squats spontanés en centre-ville ont été très rapidement fermés. Et ensuite, en Grèce, par exemple, très rapidement, on essayait de guider, d'orienter les gens vers des centres en dur d'accueil. Tous les squats spontanés, en général, qu'on a vus, tenaient assez peu. Assez peu.
Oui, pour les squats en Grèce, il y en a qui tiennent très bien le coup. Et ça, c'est une chose, parce qu'il y a une nécessité. On ne peut pas aller... Ça tient quand même. C'est un des rares pays, enfin moi, mon expérience des squats, c'est le rare endroit en Grèce où ça arrive à tenir. Mais c'est Il parlait d'Exarchia, c'est surtout dans le centre d'Athènes et des endroits. Après, c'est souvent plus difficile de faire des squats à l'intérieur du pays de la Grèce. Les centres organisés, qui sont une structure et que l'on peut retrouver, qui se répètent, c'est des centres qui sont faits par des organisations, le HCR, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, où il y a une certaine... il y a des règles et on arrive à structurer et ça se répète. Donc, autrement, après, les États et tout ce qui est administration locale, ils font au feeling des gens qui sont impliqués là-dedans et des fois, ça donne des choses étranges qu'il a évoquées dans la conception.
Quand je parle de squat spontané, c'est qu'il vient spontanément des personnes qui les occupent. Après, il peut y avoir des structures ou des personnes qui décident d'accueillir. Ça, c'est tout à fait possible. Et en tant que tel, par exemple, quand des initiatives des demandeurs d'asile ou des réfugiés ou des migrants de constituer des points d'accueil, peut-être des petites unités locales, mais tout ce qu'on a pu voir après, c'est encore une fois modéré, c'est très souvent après aussi la volonté de les encadrer, les orienter vers des organisations, parfois des ONG ou des structures d'État, mais très souvent après, au bout d'un moment, quand ça atteint une certaine taille critique, on les dégage, quoi.
Bon, il y a eu l'exemple de Kat Albi, mais vous connaissez l'histoire, je suppose. Il y a eu un squat qui a été ouvert à Albi par des gens qui étaient militants, notamment RESF, mais c'était pas RESF qui... Enfin, il y avait eu RESF impliqué, je crois. Ben, voilà. Et il a duré plusieurs mois, mais il a été démantelé, ouais, vidé, par les autorités. Et le lieu, qui était un lieu public, hein, c'était un centre EDF, c'est ça ?
Oui.
Ouais. Est resté vide. Voilà. Donc, voilà. Alors, c'était 2000, donc septembre 2016, février 2017, voilà. Ouais. Et c'était intéressant parce qu'il y avait aussi une expérience de centre social autogéré et donc une démarche qui poussait les résidents à s'activer aussi, à participer à des activités. C'était à cet égard assez intéressant, mais ça a été difficile aussi hein, vers la fin. Enfin, les relations entre les résidents qui sont sous pression, sous tension, dans l'incertitude quant à leur sort, sont forcément des relations tendues.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Albigès sur le 95.4 et le 104.2.
S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être en venir à l'accueil qui a lieu dans le Tarn par des familles de jeunes notamment, mais pas seulement, et que faire quand on a des familles qui viennent demander du logement, parce que nous, dans l'association Solidarité Migrants, on est en difficulté par rapport à cette demande. Il y a des associations dans le Tarn qui, grâce à des dons, financent certains loyers. Bon, nous, on n'est pas assez costaud pour le faire. Et donc, la difficulté, c'est de trouver des bailleurs, parce qu'il y a parfois des familles de clandestins qui ne sont pas du tout demandeurs d'asile et qui n'ont aucune possibilité de demander l'asile, hein, puisque l'asile, en France, est a priori attribué assez rarement et à des gens qui viennent de pays étiquetés en guerre où leurs vies sont en danger. Mais même pour des pays comme l'Afghanistan, l'acceptation du droit de statut de réfugié est assez aléatoire, variable, disons. L'enjeu, c'est de trouver des bailleurs qui acceptent de louer des logements à des gens qui ont des revenus par un travail clandestin, par exemple, parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Donc, ils arrivent à gagner de l'argent pour faire vivre leur famille, mais c'est difficile de trouver des bailleurs qui font confiance suffisamment pour louer à ces populations. Peut-être je voulais en venir à la lecture de quelques textes littéraires, parce que la question de l'accueil est une très ancienne question européenne et mondiale, je pense, enfin qui concerne toute l'humanité. Et donc l'un des textes fondateurs de notre civilisation, c'est par exemple l'Odyssée, où il y a un personnage errant, très célèbre, qui est Ulysse, qui part de Troie avec plusieurs vaisseaux, et il est assez riche. Lorsqu'il a sa première étape chez les Kikonès, il se comporte en pillard. Et il pille la ville, il détruit le temple, enfin il se comporte en pillard atroce, avec destruction, exactions diverses. Et par la suite, à chacune de ces étapes, il perd une partie de ses vaisseaux, ses hommes, et petit à petit, jusqu'aux vêtements qu'il a sur le dos. Et donc, il finit par arriver sur l'île de Skerry, qui est une sorte d'île idéale, une sorte d'utopie magnifique. Et à ce moment-là, il cherche à atteindre le palais du roi, Alkinos, mais il est bien servi par une déesse qui est Athéna, qui s'appelle Pallas, enfin, elle est appelée Athéna ou Pallas dans l'Odyssée. Et en fait, la double situation du migrant, de l'inconnu errant qui arrive, est représentée dans deux petits textes, pas très éloignés dans l'œuvre. Et donc, je vous propose de la lecture de deux extraits qui mettent en scène ces deux situations. Ulysse, pour gagner la ville, se leva. Pallas, par bienveillance, l'entoura d'une vapeur, de peur qu'en le croisant, un de ses altiers phéaciens ne l'insulta ou ne lui demanda son nom. Comme il allait entrer dans la charmante ville, Pallas, aux yeux étincelants, vint au-devant de lui sous l'aspect d'une jeune enfant portant sa cruche. Comme elle s'arrêtait devant lui, il l'interrogea. « Mon enfant, voudrais-tu me conduire au palais du noble Alcinoos qui règne sur ce peuple ? J'arrive ici en étranger, après beaucoup d'épreuves, d'un pays très lointain. Je ne connais aucun de ceux qui tiennent cette ville et ses domaines. » Athéna, dont l'œil étincelle, répondit. « Père étranger, c'est volontiers que je te montrerai la maison que tu dis. Mon père habite tout auprès. Mais suis-moi sans un mot. Je te montrerai le chemin et ne va pas fixer des yeux ni questionner quiconque. Car on supporte mal ici les étrangers et ne fait pas très bon accueil à qui nous vient d'ailleurs. » Donc la déesse en fait protège Ulysse du regard des gens parce qu'il risque d'être agressé. On lui demandera son nom. Et l'étranger, c'est celui qui ne rencontre personne qui le connaisse. Il n'est plus chez lui dans la mesure où plus personne ne sait qui il est, ni d'où il vient, ni qui ont été ses parents. Et donc, cette méfiance à l'égard de l'étranger, c'est l'une des attitudes possibles. Et, bon, je vais y venir après. Donc, le deuxième texte, Ulysse est arrivé au palais du roi. Ulysse l'endurant traversa la demeure, caché dans le brouillard dont Athéna l'enveloppait, se dirigeant vers Arété, Arété c'est la reine, et le seigneur Alcinoos. Ulysse mit ses bras autour des genoux de la reine et la nuée surnaturelle se défit. Tous restèrent muets dans le palais, voyant cet homme, et l'observaient avec stupeur. Ulysse l'implora. « Fille de Rexénor égale aux dieux, ô Arété, je viens à ton époux, à tes genoux, homme meurtri, à ses convives. Puissent les dieux leur donner le bonheur tant qu'ils vivront, et qu'ils laissent à leurs enfants les biens de leur palais et les présents reçus du peuple. Mais pour moi, sans retard, aidez-moi à rentrer dans ma patrie, car trop longtemps j'ai souffert loin des miens. » Là-dessus, il s'assit au bord du foyer dans la cendre, près du feu. Tous restaient sans rien dire en silence. Enfin, le vieux héros Échénéos prit la parole. C'était le plus âgé des Phéaciens, le plus disert, car il savait beaucoup de choses de jadis. C'est pour le bien de tous qu'il prononça ces mots. « Il n'est pas beau, Alcinoos, il te messied de laisser l'hôte à terre dans la cendre du foyer. Ceux-ci ne disent rien, car ils attendent que tu parles. Allons, relève l'étranger. » Fais-le asseoir en un fauteuil clouté d'argent et commande au héros de mélanger le vin pour rendre encore gloire à Zeus, dieu de l'éclair, ami des vénérables suppliants, et que pour l'hôte, l'intendante improvise un repas. En fait, il y avait une tradition dans l'ancienne Grèce qui était de considérer les errants, les suppliants, ceux qui arrivent avec rien sur le dos et qui ne possèdent rien, comme les envoyés de Zeus, c'est-à-dire du plus grand des dieux. Ce qui supposerait qu'en les accueillant, on honore le plus grand des dieux et que donc on s'élève soi-même un rang un peu plus sublime que l'ordinaire méfiant à l'égard des étrangers, parce qu'on a peur chez l'étranger du pillard. Et on est tous constamment partagés entre ces deux attitudes. Soit on devient meilleur en accueillant quelqu'un à la maison, en lui offrant le meilleur siège, le meilleur repas, les draps les plus fins, etc. Soit eh bien, on se méfie de l'étranger, de l'autre qui est différent, qui va déranger notre façon de vivre, qui va déranger le paysage de ce que l'on connaît, puisqu'il fait irruption, intrusion, et qu'il est quelque chose qui détonne par rapport à nos habitudes, à notre sécurité. Et enfin, je crois qu'on y est tous confrontés, hein, dès lors que quelqu'un qu'on ne connaît pas rentre dans le wagon de train ou dans le bus ou dans la salle où on est, on ne le connaît pas dans un premier temps, c'est l'intrus. Et que vient-il faire ici, celui-là ? Vous voyez ? Et donc, et puis en l'accueillant, eh bien, on devient peut-être un peu meilleur. Maintenant, ce n'est pas toujours idéal l'accueil aussi, parce que l'autre, eh bien, il a ses qualités et ses défauts, il a ses habitudes. Un jeune homme à la maison, il va peut-être faire couler l'eau très, très longtemps dans la douche, et c'est intrusif et problématique. Et puis, un adolescent, c'est un adolescent. S'il n'a pas ses repères, ses parents, tout ça, si on l'accueille à la maison, eh bien, il va falloir gérer un adolescent sur qui on n'a pas autorité, avec qui la relation de confiance n'est pas tout à fait installée, parce qu'une relation de confiance, il faut du temps pour l'installer. Et donc, eh bien, tous ces ajustements, ces petites frictions, ces difficultés et obstacles, il va falloir du temps pour que l'accueil devienne harmonieux, digne de tout le monde, hein, de l'accueillant et de l'accueilli, et qu'il corresponde aux souhaits de chacun, en fait. Bon, nous, dans l'association, on dit qu'accueillir quelqu'un chez soi, c'est toujours redoutable parce que, justement, on n'a pas l'habitude aussi de forcer... Enfin, ça dépend des familles, mais on n'a pas l'habitude de faire venir fréquemment des gens de l'extérieur et de les garder longtemps, d'autant que là, pour les personnes étrangères sans droit ou sans papier, il n'y a pas de règle sur la durée. Et donc, il peut être intéressant, si on veut négocier un accueil de ce type, de s'associer, en fait, soit à une association, soit à des gens autour qui peuvent prendre le relais un week-end, une semaine, de façon à ce que l'accueil se fasse de façon moins tendue, en fait, et moins, avec moins de pression. Je voulais vous lire un texte de Cavana, parce que Cavana est un auteur intéressant, qui était fondateur de Charlie Hebdo, première période, et qui est lui-même fils d'un plâtrier italien et d'une française. Donc, dans les années 30, en plus, l'Hérital représente de façon assez truculente cette réalité des années 30. Et ce qui est bien, c'est qu'il montre que le regard sur l'étranger est un regard où tous les, enfin, où tout le monde est un peu raciste, y compris les étrangers eux-mêmes. Alors, donc, je vais vous lire quelques petits paragraphes qui se trouvent au début du roman. C'est un roman autobiographique. L'Hérital, on est mal piffé. C'est parce qu'il y en a tellement par ici. Les mômes français ne risquent pas le bout de leur pompe dans nos rues à Rital. Mais à l'école, là, ils se rattrapent. Se sentant costauds, les petites vipères. On voit bien que leurs parents ne se privent pas de débloquer sur nous autres à la maison. Tiens, rien que le genre de vacherie que ces merdeux nous balancent, ça pue la connerie de leurs vieux. Les Rital, vous êtes bons qu'à jouer de la mandoline. De mandoline, je n'ai seulement jamais vu. L'idée de mon père jouant de la mandoline... Dans votre pays de paumé, on crève de faim, alors vous êtes bien content de venir bouffer le pain des Français. Pardi, c'est normal, non ? S'ils se laissaient mourir sur leur tas de cailloux, les Rital, on les traiterait de feignants. Ils vont là où il y a à bouffer. Là où un gars avec deux bras et du cœur au ventre a une chance de dégoter un crouton au bout d'une journée de sueur. Les Français sont bien contents de le vendre, leur sacré fameux pain français à ces gros ploucs de travailleurs. Si bien élevés, si humbles, qui se coltinent les brouettés de béton à leur place. Eux, les prolos français, leur rêve, c'est de devenir fonctionnaires, d'entrer à la poste comme télégraphiste à vélo ou à la cartoucherie de Vincennes. Qu'il pleuve, qu'il vente, t'es à l'abri, et à la fin du mois, la paye tombe. Des métiers de gonzesses, la preuve. Leurs mémères y bossent aussi. Elles font les mêmes boulots qu'eux, juste les mêmes. Elles se mettent du rouge à lèvres et elles ont des indéfrisables, des vrais poufiasses d'usine. Faut voir ce qui se passe derrière les tas de caisses d'obus. Excusez-moi. Si tu veux pas être mal vu par le contremaître, faut que tu les écartes et le mari ferme sa gueule. Trop content, tu parles. Sa bonne femme va se faire des heures supplées. Ils pourront s'acheter le tandem pour partir à la mer. Donc on entend le discours des parents Rital aussi, peut-être. Ils nous disent encore les petits haineux. D'abord, les Rital, vous n'êtes pas des soldats. Si les Français n'étaient pas là pour vous donner un coup de main, vous vous faites déculoter par les Boches à tous les coups. Donc on est dans les années 20-30, en fait, hein, donc juste après la Première Guerre mondiale. Ça, oui, ça me mouche, ça. Les petits Rital ont beau raconter que l'armée italienne s'est toujours battue à 1 contre 100, un Rital sans Boche, naturellement. C'est vrai que l'Italie n'a pas gagné beaucoup de guerres. Là, je me sens français, à bloc, comme maman. Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Guynemer et tout. Guynemer, c'est son héros à maman. Elle en pleure encore quand elle repense à tout ce qu'elle a pleuré le jour où elle a vu dans le journal qu'il était mort, tombé en plein ciel de gloire, même que le Boche qui l'avait descendu lâchement par derrière, autrement c'était pas possible, était venu avec son avion à l'enterrement et avait laissé tomber une couronne, une belle, qui avait dû coûter cher, juste au-dessus de la tombe. Et la couronne avait encerclé la croix, faut drôlement savoir viser. Surtout qu'un avion, ça va vite, ils sont pas mal non plus comme aviateurs les Boches. Le journal, il est dans une boîte, c'est le matin, tout jaune, tout cassé au pli. Et dans la boîte, il y a aussi les photos des frères de maman, mon oncle Louis et mon oncle Baptiste, habillés en soldats de la guerre. Et aussi la photo de mariage de maman, avec toute la famille française. Ils ont l'air vachement pas commodes, tous. On voit qu'ils étaient pas trop fiers qu'elle se marie. Et on voit qu'ils étaient pas trop fiers qu'elle se marie à un Rital qui savait ni lire ni écrire, même pas parler français, et qui chiquait, et qui leur crachait tout noir au ras des pinceaux. Je dois dire que moi non plus, je comprends pas bien ce qu'il lui a pris, surtout qu'elle était belle dans le genre chat sauvage, va savoir. Comme étranger par ici, il y a que les Rital. Papa m'a dit que dans le Nord, c'est plein de Polaks. Donc les Polaks, c'était le Polonais. Des grosses brutes, des vraies bêtes sauvages. Ils arrachent les betteraves, c'est tout ce qu'on peut leur demander. Et encore, si t'es pas tout le temps derrière leur cul, ils les cassent avec leurs grosses pattes de polac. Ils salopent tout. Ou alors, ils vont dans les mines piocher le charbon. Mais le bâtiment, ils pourraient pas. C'est trop fin, trop délicat. Faut avoir l'œil juste, faut penser avec la tête. Et on voit que le discours du père Rital est très méprisant envers les Polonais, hein, qui font du travail grossier, travail, voilà. Donc finalement, l'exclusion, le regard sur l'autre est toujours un peu discutable selon le point de vue qu'on adopte. Sur le développement sur la mère qui a épousé après la Première Guerre et qui a pour héros Guy Nemers, on s'aperçoit que ce qui constitue une nation et le sentiment d'appartenance, hein, c'est un passé glorieux ou des choses positives faites ensemble. Et donc, on retrouve ça dans l'intégration que permettent les activités en commun dans les centres d'accueil ou dans les familles ou dans les lieux où des étrangers arrivent et restent. Et plus il y a d'activités en commun, plus une expérience commune et une solidarité se construisent, et donc un sentiment d'appartenance et de connaître l'autre et tout ça. Voilà.
Est-ce que peut-être quelqu'un voudrait faire part de son expérience ou des questions, des gens qui accueillent ou qui ont des questions?
Bon. Il est midi moins 5, on va peut-être s'arrêter là, donc, et on vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à Céline Isard et Vincent Brugère pour la qualité de leur témoignage. Merci. Bonne journée à vous.
Juste, tant qu'on y est, très bien. Si jamais vous êtes intéressé par le travail des conférenciers et conférencières qui étaient là, peut-être qu'ils vont pouvoir nous dire où retrouver toutes ces infos.
Oui, alors on a un site web qui est dédié exclusivement à ce travail sur la question migratoire qui s'appelle europe2050.com. Europe2050.com, où on peut avoir un bon aperçu d'ensemble de tout ce travail qui est un peu conséquent. Voilà.
Merci. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de cette émission sur Radio Albigès. Merci à vous de l'avoir suivi avec nous. On rappelle donc que cette conférence présentée par Céline Isart et Vincent Brugère a été enregistrée le 10 juin 2019 à l'occasion de la foire Biocybelle à Groyer. Si jamais vous avez manqué le début, elle est disponible en podcast en passant par le www.radioalbigès.com. À l'onglet podcast, vous pourrez ainsi retrouver également toutes les émissions enregistrées disponibles en ligne, ainsi que toutes les autres conférences qui ont été données à l'occasion de la journée Biocybelle. Merci à vous d'être avec nous et très belle fin de soirée à l'écoute de Radio Albigès.